Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions sur le Gravelman Auvergne et la suite de mes aventures Gravel. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les lundis, mercredis et samedis de course à pied, de sport, surtout de mouvement. Et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant au propre défi. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui donc, je vous propose un nouvel épisode commun entre Kilomètre 42 et Kilomètre 150 pour faire un bilan du Gravelman. Cette fois-ci, c'est pas un enregistrement pendant le Gravelman comme l'épisode de la semaine dernière. Mais vraiment, en fait, la réponse à toutes vos questions, parce que vous m'avez posé de nombreuses questions, hein, que ce soit par Instagram, par le Hamster Running Club, par WhatsApp. Donc j'ai vraiment, vraiment beaucoup de questions. Donc c'est pour ça que je vais pas faire une intro très longue. Hein. Je vous rappelle que j'ai mis plein de liens, qu'il y a tous les liens aussi vers les anciens épisodes, etc. dans les notes de l'épisode. Que si vous découvrez Kilomètre 150 hein, par le biais de Kilomètre 42, ben vous pouvez retrouver toute l'aventure Gravelman depuis le début avec les premiers épisodes, avec tout ce que j'ai construit au fur et à mesure pour me préparer sur ce Gravelman Auvergne. Et puis bien sûr, vous rappelez aussi que la suite, hein, si vous ne le savez pas, pour moi, c'est de me diriger vers le Gravelman Paris-Deauville les 1, 2 et 3 septembre et là sur la trace 350 km en gravel. Voilà.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Et à partir de maintenant, je vais répondre à toutes les questions que j'essayais de trier au maximum hein, dans des petites rubriques, parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a la première question, alors celle qui est revenue le plus souvent, je la mets en premier, bien entendu, parce que vous doutez que c'est une question, alors je l'ai abordée en plus pendant l'enregistrement, mais c'est le mal de fesses. Alors Fabien me demande si j'ai eu mal au cul, Mathieu m'a demandé comment est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir mal aux fesses, et puis comment j'ai géré le mal de fesses, ça c'est Lulu Biboun. Alors, cette question-là, je l'ai un petit peu abordée, je crois qu'il mettre 80 dans l'épisode de la semaine dernière, sur justement mes douleurs, qu'au bout d'un moment j'ai mal aux fesses, que bah déjà parce que je suis rentré dans des distances que je ne connaissais pas à partir de, j'avais fait jusqu'à 77 km hein, je crois en entraînement, donc à partir de 80 km je connaissais pas trop, j'avais des petites douleurs qui étaient apparues sur des positions que j'arrivais plus à trouver vraiment, et savoir comment m'asseoir, ma selle avait bougé aussi. Alors il faut savoir que la veille du Gravelman j'avais fait une photo sur Instagram et on m'a dit oui mais la selle elle est mal positionnée, elle remontait trop vers le haut, etc. Faudrait la remettre à droite, etc. Donc j'avais remise droite, mais en la remettant droite en fait j'avais peut-être pas assez serré, donc elle s'est desserrée, donc je l'ai resserrée pendant la course, et en fait bah, le résultat c'est que elle s'est retrouvée dans la position pendant laquelle j'ai fait toute la préparation, donc c'était pas si mal que ça en tant que tel, mais quand même au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'avais des petites douleurs, des petits c'est pas vraiment des frottements, c'est pas vraiment des douleurs très intenses ou quoi que ce soit, et j'avais même pas mis de crème anti-frottement. En fait la crème anti-frottement était dans mon sac et je me suis rendu compte après que j'avais oublié de la mettre dans mon sac à dos pour aller au départ et tout, hein, pas, je l'ai pas mis sur le sac vélo, je l'ai pas prévu comme ça, je me suis dit ouais, sur 120 si j'en mets au départ, etc. Mais en fait j'en ai pas mis du tout, pas mis du tout, donc j'avais le cuissard, hein, pas de slip, etc. Ça fait partie des choses que j'ai apprises avec le Gravelman. Et puis l'idée comme ça c'était de dire bon bah entre faire bon il y avait 137 km entre les 77-80 km que j'avais fait en entraînement où j'avais pas eu trop de douleur, je m'étais entraîné en fait à faire régulièrement ces distances-là et puis monter au-dessus, bah je savais pas trop comment ça allait se passer. Et effectivement, au bout du kilomètre 80 à peu près, j'ai eu commencé quelques douleurs où je savais pas trop comment me positionner. J'étais toujours en train d'avancer, un petit peu reculer sur ma chaise, sur ma selle, essayer de changer un peu de position, mettre un petit peu plus vers l'avant par moment et puis un petit peu me reculer. Enfin voilà, un petit peu ces changements comme ça. Alors comment je fais pour éviter d'avoir mal aux fesses? Ben je pense que déjà c'est beaucoup d'entraînement hein, qui ça passe par là. C'est-à-dire que j'ai même fait au départ, je roulais sans cuissard. Je roulais avec mon short de course et un slip hein, classique, un caleçon. Et je roulais sans cuissard, donc j'avais roulé comme ça. J'ai un cuissard d'hiver. J'ai roulé aussi pas mal avec mon cuissard ma trifonction en fait. J'ai une trifonction que j'avais acheté 10 € je crois ou 15 € chez Decathlon pour préparer le swim. Et en fait j'ai beaucoup roulé avec, que je trouvais qu'en fait ça allait pas si mal que ça au niveau de l'absorption. Et puis j'avais prévu quand même normalement un cuissard court pour l'été, et je me suis dit bah pour le gravelman le cuissard court serait pratique s'il fait beau, sauf que vu le temps j'ai mis le cuissard long. J'ai eu une remarque, on m'a dit oui mais il est peut-être un petit peu grand. Effectivement j'ai perdu un peu de poids pendant la préparation gravelman, donc j'en ai perdu je peux pas dire exactement, peut-être 2 kilos, quelque chose comme ça. Donc il a une tendance un petit peu à glisser. C'était un cuissard qui n'avait pas de bretelles. En fait, je ne suis pas très fan des cuissards à bretelles. Je le vois avec la trifonction qui a des bretelles, etc. J'en suis pas super fan. Mais c'est vrai que c'est quand même pratique, ça évite que ça glisse. Je me rends compte aussi avec mon cuissard d'été, là, qui est aussi un cuissard sans bretelles. C'est vrai que ça glisse un petit peu, surtout quand on perd un petit peu de poids. Donc ça, c'est une question que je vais devoir régler aussi, de voir ce réglage de selle. Là, je renvoie sur un épisode qu'on avait fait avec Thomas sur la posture. Il parle de son triptyque du PSG, qui c'est pied, selle, guidon en fait. Pour s'en rappeler, c'est facile. Donc il faut régler ces trois points, hein, trois points d'appui, les pédales, hein, le pied, pédale, la selle et le guidon. Bon, moi je constate en fait que je l'avais dit hein, dans l'épisode, un petit souci de posture hein, qui peut un petit peu être présent. Les bras, j'avais un petit peu mal, et puis j'ai eu un petit peu mal aux fesses. Les pieds, ça allait bien. Franchement, ça allait bien. J'ai eu des questions après qui sont venues. Je vous en reparlerai là-dessus. Ensuite, j'ai eu des questions d'organisation. Comment est l'accueil par l'organisation sur le Gravelman? Alors ça, c'est Seb qui m'a posé cette question-là. Je dois dire que si vous êtes habitué aux courses type trail, etc., ou même aux courses sur route, etc., où il y a une grosse organisation, l'organisation Gravelman est beaucoup plus légère. Vraiment beaucoup plus légère. Elle est très sympathique, etc. Ils avaient, l'accueil était dans une salle polyvalente d'un camping où était installé Steven Le Yarrick pendant, il a dû passer 3 semaines ou 1 mois pour préparer ses courses, les Gravelman, etc. Et donc, en arrivant, en fait, bon, mais il suffit de se présenter. Moi, j'avais déjà envoyé mon certificat médical. J'étais un peu reconnu, en fait. Je me suis rendu compte, bah, d'une part, parce que dans l'équipe de Steven Yarrick, il y a différentes personnes qui écoutent le podcast, qui suivent aussi les réseaux, qui partagent un petit peu ce que je fais, etc. Donc, qui ont reconnu qui j'étais. Il y a des personnes aussi, d'ailleurs, qui couraient le Gravelman, qui écoutent le podcast. Donc, je vous fais un petit coucou si vous vous reconnaissez. Et donc, l'accueil, finalement, le seul truc qui s'est passé, c'est de me dire, bah, quel est ton nom? On m'a remis la guêpette avec Gravelman et puis une balise en fait qui était allumée. Il fallait remettre un chèque de 200 €, un chèque de caution de 200 € qu'ils ont restitué à la fin, hein, une fois qu'on rend la balise. Et c'est la balise qui permettait le suivi live. Donc la balise, on les mettait dans le sac. Après, je dois le dire, par rapport à l'organisation, par rapport à ce que j'ai vu sur d'autres courses, etc., il n'y a pas de vérification du sac, du matériel. Il y a du matériel obligatoire qui était précisé, mais il y a eu pas de vérification, en tout cas sur le 120, je sais pas, sur le 350, comment ça s'est passé. Je sais pas si ça a changé ou quoi que ce soit, mais en tout cas là-dessus il n'y en avait pas. Donc, on est aussi à l'aventure, je veux dire. Hein, je pense qu'il y a une responsabilisation de chaque participant de dire, bah voilà, là c'était de la montagne, il pouvait faire froid, fallait prendre des gants, faut prendre des trucs épais, etc. Enfin, s'habiller avec des bonnes conditions. Steven avait prévenu, il demande chambre à air, il demande kit de réparation et tout ce que tout cycliste a en faisant, surtout quand on se lance là-dedans, quoi. Je veux dire. C'est sûr que sur des sorties, quand on part 5 ou 10 km ou 15 km, quand on n'est pas loin de la maison, on peut partir. Et moi, je l'ai fait sur les premières séances, de partir sans réparation, sans chambre ou quoi que ce soit, en disant, bon, Au pire, si je crève, je suis à 5 minutes, enfin 5 kilomètres, ou peut-être une heure, mais bon, c'est, à la limite, c'est un bon entraînement pour porter le vélo, et j'en reparlerai plus tard. Mais quand on part sur une aventure comme ça, où on part sur 120, 130, 140 kilomètres, et qu'on se retrouve donc loin d'un, de toute réparation possible, loin de la voiture et tout, c'est logique de partir avec de l'équipement. Bon, c'est logique aussi de bien s'habiller. Bon, il y a eu des débats sur un groupe WhatsApp sur la veste qu'il fallait mettre. J'en avais parlé sur l'épisode sur le check-in, sur le matériel. Voilà. Mais on va dire que tout le matériel dont j'ai parlé dans l'épisode sur le check-in, c'est-à-dire il y a deux épisodes en fait de Kilomètre 350, et n'a pas été vérifié. En fait, voilà, il n'a pas été vérifié. Moi, j'avais tout, mais en lui-même, il n'a pas été vérifié. Ma crainte était un peu de dire, mais si j'ai pas la bonne veste, qu'elle est pas les bonnes conditions, etc., est-ce qu'ils peuvent me refuser le départ? C'est ce qui est marqué dans le guide, mais dans la réalité, ça a pas été le cas. C'est pas, il y a pas eu de vérification plus que ça. Après, bonne ambiance. Franchement, au départ, bonne ambiance. Steven a fait un petit briefing au départ en disant, bah justement, la petite phrase que j'avais dit là, en disant, pour lui, c'était ça le vrai gravel, hein, que certains considèrent que c'est de l'enduro, mais que pour lui, c'était ça le vrai gravel. Il a dit, je pars avec vous en faire un bout. Bon, j'ai l'impression qu'il a fait tout le gravelman 120, hein, en fait, quelque chose comme ça. Moi, j'ai pas roulé avec lui, mais par contre, quand je suis arrivé le soir, en fait, il était là. Il y avait le reste de son équipe. Alors dans son équipe, il a son assistante, il y a deux autres personnes qui étaient là aussi sur un petit ravito qui était sympa et tout sur le bord de la route. Je sais pas à quel moment en fait, je peux pas dire quel moment exactement c'était en début d'après-midi. Il y avait des petits gâteaux, un peu de chocolat, du coca, des choses comme ça sur une petite table et tout pour discuter un petit moment qui était présent. Voilà, une sorte de il y avait ouais, c'était un petit ravito. Il y a aussi, il faut le dire hein, il y a un groupe WhatsApp. Donc une semaine avant, il avait envoyé les cartes, il avait envoyé aussi le guide PDF de l'aventure. Les liens vers un groupe WhatsApp sur lequel il y avait des échanges. Il y a eu des échanges pendant toute la course. Hein. En fait, il y a eu des échanges, notamment sur un élément qui était intéressant. C'était de dire que certains sont arrivés dans la commune de Condat, c'est là où j'ai mangé le hamburger. Ils ont dit, ah ben à Condat, la boulangerie, c'était un peu dévalisé, quoi. Et puis d'autres ont dit, ouais, mais il faut aller au Carrefour parce que Carrefour est inauguré, il y a même du champagne, du saucisson et tout. Et puis d'autres ont dit, bah on s'arrête à tel endroit. Et donc, en fait, en gardant le téléphone allumé, en ayant le WhatsApp, ça permettait de le voir aussi un petit peu les choses. Et donc le soir après, bah en arrivant, donc il y avait les infos, les gens disaient on est arrivé, telle personne est arrivée. D'autres disaient bah nous on s'arrête à tel endroit parce que la nuit est en train de tomber. Ceux qui étaient sur le 350 par exemple ou qui pensaient arriver trop tard parce qu'il y a encore trop de kilométrage par exemple, ou même sur du 120. Bon, je sais pas sur le 120 s'il y en a qui sont arrivés le lendemain ou pas, mais en fait j'ai vu passer des messages disant bah moi j'arrête ce soir, on arrête, on va dormir à tel endroit parce que il nous reste trop de chemin, etc. Je pense que c'était des 350 parce que il passait un endroit où nous le 120 on passait pas, donc je pense que c'était vraiment du 350 qui était là-dessus. Et donc il y avait tous ces échanges là qui passaient, très sympathiques. Et puis donc à l'arrivée en fait, eux ils guettaient hein, dès que quelqu'un arrivait en fait, ils sortaient avec une médaille, donc une jolie médaille que j'ai à côté de moi, une petite médaille, une jolie gravelman et tout en bois, et qui venaient nous remettre et qui demandaient comment c'était passé, etc. Et puis après ils nous ont payé un coup à boire, il y avait différents trucs à boire, différents trucs à manger, etc. On a discuté un moment, moi j'ai profité aussi pour acheter un petit t-shirt souvenir, voilà. Donc belle organisation. Et puis bien sûr, faut pas oublier de rendre la fameuse balise avec le chèque pour qu'il nous rende le chèque de 200 euros de pour le suivi. Et puis voilà, donc l'organisation c'est comme ça en fait, c'est vraiment comme ça. Après il avait précisé des choses aussi pour l'hébergement en disant bah voilà, si vous voulez être hébergé, vous on peut louer des bungalows, vous envoyez un mail bah justement à Anne-Sophie son assistante, etc., pour dire voilà, il y avait certains qui s'étaient arrivés la veille, donc certains qui étaient, alors il y a un peu de tout hein, certains, moi j'étais venu en voiture le matin même, il y en a qui étaient venus en van en fait hein, qui a dormi pas très loin, il y en a qui étaient venus la veille en vélo, en train plus vélo, qui avaient dormi donc à l'intérieur, il y en avait qui avaient planté une tente, il y en a qui avaient loué un gîte avec leur famille, leur compagne, etc. Enfin, tout un tas de choses. Mais c'est vrai que par contre, pendant toute la semaine, en fait, il avait dit, Steven avait dit, bah voilà, si vous voulez une place en bungalow, on peut avoir le repas, après il y a le petit déjeuner, amener un duvet, mais on peut avoir tant de places pour bungalow. S'il faut des bungalows complémentaires, on peut en rajouter, etc. Donc tout ça, voilà, sur ce plan-là, c'était au niveau logistique, c'était quand même assez facilité. Aussi de même, hein, sur, il y avait un point de passage qui s'appelle le Buffadou pour manger la truffade. Alors là, c'était sur 350. Il disait bien, bah, réservez si vous voulez avant pour être sûr, ça va être ouvert jusqu'à telle heure, etc. Pour bien un peu que les gens, ben, ceux qui étaient intéressés, ne louent pas les trucs intéressants. Donc je pense que là-dessus. Si vous avez l'habitude des grandes courses, même des petits trails, moi j'ai vu des trails où on avait vérification obligatoire du matériel, etc. avant de partir, notamment savoir si on avait un sifflet. Alors là, il n'y a pas de sifflet obligatoire dans le matériel. Si on a bien la couverture de survie, si on avait de l'eau à manger, des trucs comme ça. Voilà, ça, moi j'ai vu des trails sur lesquels, des trails un peu organisés, un peu structurés, dans lesquels ces demandes-là sont présentes et dans lesquels il y avait des vérifications. Il faut savoir qu'il y a des courses sur lesquelles la vérification est obligatoire, hein, du matériel, où alors, il y a des tirages au sort, où ils demandent à certains et tout. Moi j'ai vu un peu des deux cas. Voilà, ça dépend un petit peu des organisations. C'est vrai que sur le trail, on demande plus de matériel obligatoire que sur des courses type sur route pour un 5 ou un 10 km, il n'y a pas vraiment de matériel obligatoire. Là, il se trouve qu'il n'y a pas de dossard non plus, hein, il remet pas de dossard, il n'y a pas de classement à la fin, il y a l'ordre d'arrivée, mais il n'y a pas de classement officiel, il n'y a pas de podium ou quoi que ce soit, enfin voilà, hein, et puis on arrive à s'espacer, hein, parce que je rappelle que sur le 120, il y a 24 heures, sur le 350, on a 48 heures pour terminer, donc il avait dit arriver à telle heure maximum, essayer d'arriver jusqu'à telle heure, il y avait un petit laps de temps complémentaire et tout. Voilà, donc c'est vraiment une organisation qui est plus légère, qui est vraiment plus légère que ce qu'on peut voir sur d'autres organisations, qui est plus aventurière en fait, j'ai envie de dire, qui est plus à l'aventure et qui est plus, qui correspond plus aussi à la philosophie Gravelman autour de l'aventure. Ensuite, j'ai une autre question de Justine qui me demande combien coûte l'inscription. L'inscription en fait sur le 120 coûte 59€ et sur 350 elle coûte 99€. Là encore, franchement, alors on va pas faire des ratios prix par kilomètre, etc. Moi, dans le vélo, j'ai pas de comparaison. Je compare, si on peut comparer par rapport à ceux qui ont pris un dossard pour le marathon de Paris, vous allez vous dire qu'au kilomètre, un gravelman, c'est pas très cher, mais vous allez aussi vous dire que finalement, peut-être que la prestation est différente, parce que là, je vous dis, il y avait un tout petit ravitaillement, elle a un petit peu des trucs au départ, un petit peu des trucs au milieu et un petit peu à l'arrivée. On n'est pas sur des ravitaillements comme sur le marathon de Paris où vous avez tous les 5 km quelque chose. Il y a une médaille et puis la guêpette. Donc en cadeau de, j'ai envie de dire, en dotation produit, hein, sur par rapport, il y a des courses, il y a des fois des dotations un peu plus élevées, mais finalement la dotation Gravelman, finalement si on prend le prix d'une guêpette, si vous regardez pour une guêpette, donc ces casquettes, vous avez 15-20€, des fois même plus, hein, si vous voulez en acheter une. Donc grosso modo, hein, c'est aussi bien qu'un t-shirt finisher, il coûte pas aussi cher que ça, hein, les t-shirts finisher qu'il y a sur des courses. Donc grosso modo pour le tarif, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher du tout. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire aussi dans l'organisation, il y a un truc qui est vraiment super cool et là vraiment il faut le pointer. Il y avait Julien Rabier qui faisait les photos. Donc il a Julien Rabier qui prépare la Race Cross France, qui a fait des gravelman, etc. aussi, qui faisait les photos aussi. Alors je crois qu'il a fait le 350 sur la journée et du vendredi, et puis ensuite avec les photos, etc. Donc il a envoyé, je pense 3-4 jours après, en fait, en tout cas, il a envoyé. Et les photos que vous voyez sur mon Instagram où on voit des photos où j'apparais dessus, où c'est pas moi qui les prends, c'est pas des selfies, c'est des photos de Julien Rabier. Et en fait, il a envoyé un gros dossier, il y a au moins 500 photos dessus, dans lequel il y a toutes les photos des participants, etc., avec du bon matos, avec des super appareils, avec son super appareil photo, donc du bon matos, un bon traitement, et en version basse définition et en version haute définition. Là encore, c'est vrai que ça change des courses où, vous savez, quand vous arrivez à l'arrivée, on dit « ouais, il y a des photos qui sont disponibles, etc. » Et puis sur les photos, il y a des filigranes, il faut acheter les photos. Bah là, non. En fait, les photos, en fait, il dit « voilà, vous pouvez les utiliser pour vos usages personnels, vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux en mettant le lien vers Julien Rabier, le lien vers Gravelman, etc. » Mais on a les photos en haute définition, voilà, on les a. Donc ça, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment, vraiment génial et appréciable. C'est pour ça que je dis que le prix, en fait, est vraiment très bas. Hein. 59€ pour, finalement, la journée d'aventure, 99 pour 2 jours d'aventure. C'est un prix si vous vous êtes inscrit sur d'autres courses, ça vous semblait très raisonnable. Alors après, on va pas faire les comparatifs des prestations, mais en tout cas, c'est à souligner, vraiment à souligner, cette histoire des photos, parce que c'est vrai que si vous prenez un pack photo sur un marathon type Paris ou je sais pas quoi, vous allez rajouter 30-40€ ou 5€ par photo, enfin ça va aller vite. Moi j'ai récupéré 5-6 photos où j'étais présent dessus. Si je devais les acheter, les photos, j'en aurais facilement pour 30 ou 40 euros. Voilà, très facilement. Donc sur le tarif, c'est aussi très très important de le préciser. Ensuite, alors maintenant venons-en à la préparation. J'ai une question de Thibaut qui me demande si je pouvais corriger une chose sur la préparation Gravelman. Qu'est-ce que je changerais ? Alors, il y a un truc et j'avais dit, je l'ai dit d'ailleurs à Steven en arrivant, je lui dis. Un des trucs que je vais dire qui est important, c'est que si on considère que c'est que une sortie vélo, on se plante. Le gravelman, en tout cas en format gravel, hein. Je sais pas le format route, parce que forcément le format route, normalement il fait passer par de la route. Mais si on considère que le gravelman en trace gravel n'est qu'une sortie vélo avec des jolis chemins, faciles à prendre, etc., on se plante. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais pas cerné, c'était la technicité des terrains. C'était se préparer à passer à des endroits où d'habitude, on ne met pas franchement les roues. Il y a des endroits, en fait, où je me dis, ouais, le chemin, il est pas très bon, là, je vais pas passer, là, c'est pas cool, etc. Et où, en fait, Steven, il fait passer. Alors que ça peut être des montées, ça peut être des descentes. Il y avait un petit pont de bois qui était à un moment, il fallait passer sur des trucs. Enfin, des planches qui étaient un peu, moi, j'ai cru que je m'étais planté parce qu'il y avait une barrière, il fallait pas passer. Enfin, il y avait une rebalise. Donc je me suis dit, j'ai me planté sur ma trace ou je sais pas quoi. Ben non, en fait les traces arrivaient bien là, etc. Donc il y a des chemins avec des gros cailloux, que ça soit en montée, que ça soit en descente. Il y avait un endroit où il fallait porter le vélo et la pente était, alors je sais pas, on m'a annoncé un 25%, mais c'était raide avec des gros rochers partout, etc. à porter, vraiment où là c'était dur de le porter le vélo, voilà. Et où peut-être que tout seul, en fait, quand on voit le truc, on dirait, ben non, si je prends la route là, je passe au virage. Et en fait ça faisait couper entre deux grands virages, hein, on va dire. Et ben c'est, imaginez vous avez un virage en épingle à cheveux en fait, hein, qui passe. Et ben vous prenez la route normalement. Et ben là en fait il y a un chemin entre les deux. Et ben il vous dit on passe là en plein milieu. Et ça en fait, ben normalement quand vous voyez le chemin, si on peut arriver en bas du chemin, vous dites non moi je passe pas là. Je pars on passe truc là. Ou alors là il y a cette montée là pleine de cailloux qui est raide, etc. Je pourrais l'éviter, etc. Et donc c'est ça en fait. Je pense que Thibaut, le truc que tu dois te dire en fait, c'est que sur la préparation d'un gravelman comme ça, et puis pour tout le monde c'est valable aussi, sur la trace gravel, il faut se préparer à mettre les roues à des endroits où peut-être on ne les mettrait pas normalement, classiquement on a l'impression qu'on les mettrait pas. Et peut-être que certains vont considérer que ça fait à la limite un peu VTT sur les passages, etc. Mais vraiment c'est le truc, et le corollaire de ça, c'est de se dire que peut-être que ça passe pas forcément toujours partout en vélo, mais que ça peut passer aussi en poussant le vélo, en marchant, en le portant, ou en tout cas en le poussant. Et donc il faudrait, pour moi, hein, se préparer en fait à se dire, je dois placer les roues à des endroits où peut-être je ne suis pas à l'aise, mais que je devrais devoir les placer, et que peut-être ces endroits-là, bah, je vais devoir marcher, je vais devoir pousser le vélo, etc. Et donc s'entraîner aussi, pas seulement à rouler, mais aussi à considérer ce temps de dire, il y a du temps de marche et il y a du temps de portage ou de poussée du vélo. Steven avait annoncé 95% de la trace vélo était potentiellement faisable en vélo. Moi, je sais pas s'il y a 95%. Je vais vous donner, j'ai une question plus bas après sur le temps, etc. Mais 95% de 140 km, je le répète, hein, je l'avais dit dans l'épisode, on est quand même à 7 ou 8 km hein, où on pousse le vélo. 7 ou 8 km quand vous marchez à pied, on est sur 1h30. Alors en poussant le vélo avec des cailloux, des trucs comme ça et tout, on passe rapidement à 2h dans cette histoire-là. Et donc en fait, c'est ça aussi qu'il faut considérer, c'est de se dire, c'est du vélo, mais c'est aussi de l'aventure. Et que dans la partie aventure, eh ben, il y a des moments où le vélo, ben, vous êtes obligé de le pousser. Et si vous regardez un petit peu ce que fait Steven Yarrick, les vidéos, son film sur le Népal, etc., ben, vous voyez que dans ces aventures aussi, il y a des moments où il y a beaucoup de portée, il y a beaucoup de pousser le vélo, etc. Et que ben, c'est aussi sa vision des choses, c'est-à-dire d'amener le vélo à des endroits, mais sur la trace gravel, en fait, faut pas se dire qu'on est que sur une sortie vélo, hein, on est sur une sortie aventure. Voilà, vraiment. Et que, il faut se préparer aussi à se dire, bah, il y a des moments, bah, je vais devoir descendre du vélo. Il y a des moments, je vais devoir pousser le vélo. Il y a des moments, je vais peut-être devoir le porter. Il y a des moments, ça va être dur. Il y a des moments, ça va être un petit peu long. Ça va être un petit peu pénible, un petit peu chiant. On va se demander pourquoi je passe par là alors que je pourrais pas passer à tel endroit. Mais qu'en fait, c'est le grand jeu du gravelman. C'est le grand jeu du gravelman. Et que quand on s'embarque là-dedans, eh ben, on s'embarque, en fait, dans la définition de l'aventure de Steven Le Yarrick. Et que ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Et que dans la préparation, il faut se préparer aussi à ça et pas seulement se dire je roule sur des beaux chemins. Ensuite, j'ai des questions sur le matériel. Alors sur le matériel, j'en ai eu pas mal. Xavier me demande qu'est-ce que je changerais à mon équipement. Alors, qu'est-ce que je changerais à mon équipement ? Je vous avais dit, donc, il y a deux épisodes dans Kilomètre 150, j'ai fait un bilan sur tout mon équipement, les sacoches, etc. Et il se trouve, en fait, que le remplissage de ma sacoche à l'avant était pas terrible. Était vraiment pas terrible. Au début, je pensais qu'il était pas mal. En fait, ma sacoche s'est un petit peu desserrée. Et puis, surtout, en fait, il y a des trucs qui ont bougé dedans. Et notamment, j'avais un paquet de Tagada, de fraises Tagada, qui a commencé à glisser sur le côté. Et il a tellement glissé qu'à un moment donné, j'ai cru qu'il allait tomber. D'ailleurs, je crois que sur une des photos que je partageais sur Instagram, on voit qu'en fait, il est en train de basculer un petit peu. Donc au début, je l'ai replacé, j'ai resserré un petit peu le sac, j'ai modifié et tout. Et puis à un moment donné, sur une pause, j'ai dit bon, quand même, je vais rouvrir le sac en fait. Hein, c'est un sac tube qui ferme des deux côtés et avec des velcros, des scratchs, des tout un tas de réglages, de sangles, de réglages, etc. On peut y mettre une tente hein, dedans, on peut y mettre un duvet, on peut y mettre plein de choses. Mais là, moi, j'ai mis un truc un peu plus épais de rechange, j'avais mis de quoi y mettre une veste, ma veste de rechange au cas où, j'avais mis mes mitaines parce que j'étais parti avec des gants classiques, j'ai pris mes mitaines au cas où ils se mettent à faire chaud, et d'ailleurs j'avais mis mes mitaines au bout d'un moment, et puis à la fin de la journée j'avais mis mes gants sur mes mitaines, donc j'avais mis des équipements comme ça, et j'avais mis aussi des recharges de repas, donc j'avais dit hein, que j'avais pris des repas j'avais pris des électrolytes, et puis j'avais aussi pris la boisson d'effort d'Apirone, d'effort longue distance d'Apirone. Et en fait, je l'avais en sachet dose, en fait. Et donc, ces doses, là, j'en avais deux dans ma sacoche de cadre, et puis j'en avais deux dans ma sacoche de guidon, pour pouvoir faire les recharges. Plus des bonbons, plus des gâteaux, etc. Et en fait, ça, par contre, ça a fini par glisser. Le paquet de M&M's, en fait, il a fini par glisser. Paquet de Tagada, paquet de M&M's, pas trop. D'ailleurs, j'arrivais même pas à l'atteindre au bout d'un moment. Donc, il a fini par glisser. Et donc, en fait, en glissant, il s'était un peu posé à un moment donné. Il s'est posé un peu contre les manettes de frein, de changement de vitesse, je veux dire. Enfin, frein, changement de vitesse, mais surtout sur le changement de vitesse. Voilà, à un moment donné, il s'était un peu posé dessus. Donc, j'ai dû le rebouger. C'était un peu chiant parce qu'il faisait du bruit. Puis, je voyais qu'il se décalait. J'avais peur qu'il finisse par s'ouvrir. Donc, à un moment donné, j'ai tout resserré. J'ai tout recalé, etc. Voilà, pour vraiment que ce soit ça. Donc ça, c'est vraiment le remplissage de mon sac à l'avant. Il y a un truc à changer. Je pense d'ailleurs que sur 350, ma stratégie, ça serait plutôt de prendre une sacoche qui se mettrait à l'arrière. En fait, tout simplement à l'arrière. Et ça, c'est pour mes trucs bikepacking aussi que je voudrais bien faire. Ça serait en fait une sacoche qui se mette à l'arrière sur, vous savez, dans le prolongement de la selle. Tout simplement. Ce qui m'obligera à changer en fait sur le plan matériel de savoir où je vais mettre ma trousse à outils. Voilà, un petit changement à faire, un petit réglage et tout là-dedans. Mais je pense que je mettrai des trucs à l'arrière et alléger aussi en fait un petit peu, rééquilibrer un peu le poids qu'il y a sur le guidon. Parce que si je mets trop de trucs sur le guidon, sur route, franchement, c'est pas gênant, j'ai fait des tests. Mais en roulant sur les chemins, avec le pilotage, etc., si c'est trop lourd la sacoche, ben, sur le pilotage, on s'est un peu embarqué, c'est moins pratique, etc. Et là, il y avait besoin de piloter le vélo, il y avait des descentes qui étaient pas faciles, etc. Donc là, vraiment, ce truc-là, le remplissage de mon sac à l'avant, le serrage et tout, c'est à revoir. L'autre élément, peut-être, qui sera à revoir, c'est mon GPS. J'avais dit, hein, j'ai le Brighton Rider 420. Je dis, c'est un très bon GPS sur le plan du suivi, franchement, du prix. Enfin, je l'ai pas payé cher, j'ai payé 78€. Donc, je l'ai pas payé cher, il était en déstockage. Il y a eu des déstockages il y a pas longtemps, j'ai vu aussi on m'a dit sur le modèle qui est au-dessus. Et justement, si vous avez du budget, prenez plutôt le modèle qui est au-dessus avec la cartographie intégrée. Sur le 420, il n'y a pas la cartographie intégrée. Il y a eu deux, trois endroits, en fait, où, il y avait deux routes, en fait, j'hésitais entre le virage, etc. Il y a un endroit d'ailleurs, je l'avais dit hein, dans l'épisode de la semaine dernière, dans le live, que il y avait un couple qui roulait, qui lui avait un GPS intégré, il m'a dit non, là c'est à gauche, c'est vraiment à gauche. Mais n'empêche que j'en ai vu qu'il y avait aussi des GPS plus complets, etc. et tout, et qui se sont trompés sur un endroit. Et puis, je dois le dire aussi, il y avait d'autres personnes qui suivaient la trace sur leur montre. Hein, sur leur montre. Il y en avait un, la montre était au poignet, il l'avait pas mis sur le... C'est une suggestion qu'on m'avait fait, on m'avait dit mais... Pourquoi t'accroches pas ta montre en fait juste à ton cadre et que tu fais pas le suivi sur la montre? C'était une solution potentielle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mis la carte aussi sur ma montre au cas où. En cas de besoin, j'avais mis dessus. C'est juste en fait que je me disais, tiens, là, ça sera plus pratique d'avoir un seul écran dans lequel il y a tout, etc. Je voulais pas faire le suivi avec le téléphone. Il déconseille de faire le suivi avec le téléphone parce que sinon au niveau batterie, imaginez. Alors déjà sur la journée du 120, même sans faire le suivi déjà mon téléphone j'ai dû le recharger avec une des batteries que j'avais amenée. Alors imaginez sur le 120 avec un suivi complet et imaginez sur 350. Donc c'est juste pas possible. Mais là, c'est vrai que si vous avez moyen d'avoir un GPS qui est bien la carte intégrée avec les intersections plus faciles, etc. à voir, je pense quand même que c'est un truc un peu mieux. Là, moi, c'était un peu la limite. Hein. Il y a eu un endroit ou deux où j'ai hésité, où je me suis un peu planté. D'ailleurs, vous l'avez entendu. Hein, à chaque fois que j'étais moins concentré, d'ailleurs, la lecture et tout. Et puis, le Brighton, en fait, il y a toujours un peu se dire, bah tiens, finalement, cette espèce de petite intersection là, ce petit truc, quand c'est tourné raide, c'est pas un problème. C'est quand c'est tourné un peu, qu'il y a par exemple une patte d'oie, il y en a un à droite, un à gauche. Là, ça va, mais si par exemple il y a deux trucs, il y en a un qui part un peu tout droit et un qui part un tout petit peu sur le côté, ben il y a des endroits où on hésite. Mais j'ai vu d'autres personnes hein, qui, même avec il y en a qui se sont trompés de chemin, même avec des GPS plus complets, etc. Donc voilà, je me dis à la limite, c'est pas le plus gênant en soi. Il faut que je vérifie aussi l'autonomie parce que l'autonomie sur le 350, il serait trop court, donc il faudra que je le recharge en cours de route. Ça aussi, ça fait partie des peut-être. Des limites, je sais pas en fait après combien de temps tient un Garmin, etc. Enfin, quel prix faudrait mettre sur un Garmin comparé à ce tarif-là. Moi, je trouve que franchement, il a bien rendu service. Ensuite, Gipsal m'a demandé quel est l'équipement que tu auras sur le vélo, le coup, etc. Alors, j'ai fait un épisode complet il y a deux semaines, donc sur tout l'équipement, donc Kilomètre 50, dans lequel j'ai listé tout l'équipement, j'ai mis tous les liens. Je précise, le vélo, c'est un Triban, donc chez Decathlon. RC120 subcompact à l'époque 1200 euros, maintenant il est passé à 1300 euros au 1er février, donc voilà, ça c'est le prix du vélo. Je n'ai pas changé les roues, je n'ai pas changé les pneus, je suis resté sur les pneus Touareg, je suis resté sur les roues qui étaient dedans, je suis resté en chambre à air, donc j'ai pas eu de manipulation, de mettre du préventif ou quoi que ce soit. J'ai crevé une fois dans la préparation et comme j'ai mal réparé, j'ai crevé une deuxième fois en fait, donc j'ai eu un changement de chambre. Ce qui, sur le coup, franchement, des changements de chambre, c'est pas ce qui m'a coûté le plus cher. Hein, 3,50€. Et encore, je crois qu'il y avait une promo quand je l'ai acheté, donc je me demande si j'ai pas mis que 3€ dessus. Donc, franchement, kit de réparation, rustine, etc., ça m'a pas coûté cher en réparation. Mes Touareg sont très bien passés. J'avais dit, hein, j'avais un doute, hein, sur la boue, etc. On m'a dit, ouais, faudrait peut-être changer, mettre des plus gros crampons avec la pluie, etc. Bon, en fait, c'est très bien passé. Et puis, j'ai vu des gens qui faisaient des aventures à vélo, là, qui partaient ensuite, aussi sur des traces gravel et tout, avec des Touareg. Donc là-dessus, moi, aucun problème. Quand il sera moment de les changer, ça sera de voir après comment je les change, quel pneu je mets, est-ce que je les mets en... D'ailleurs, je pense que le changement de pneu se fera cet été, juste avant le Paris-Deauville. Ben, pour une raison simple, hein, c'est que je sais pas combien ils vont amener à 2000, peut-être 2000 kilomètres, hein, j'ai pas regardé exactement le kilométrage du vélo aujourd'hui, sachant que là j'enregistre le mardi, que hier c'était mon 666e jour de course et que j'ai fait 66 kilomètres de vélo comme petit défi, donc j'ai pas regardé toutes mes stats de mise à jour du vélo, du matériel, à combien j'en étais, mais je vais essayer de le regarder en même temps que je suis en train de vous parler. En équipement, j'ai fait avec le vélo, pour l'instant je suis à 1573 km. Donc autant dire que pour donc il reste le mois de juin, il reste une partie de juillet, parce qu'il y a une partie de juillet je roulerai pas, le mois d'août pour préparer le Gravelman Paris-Deauville, autant dire que ça va faire du kilométrage. Donc je pense que je vais finir les pneus comme ça, notamment parce que bon, il y aura les routes chaudes, il y aura les terrains un peu secs, je pense que les pneus vont finir de s'user, même si sur terrain sec ils finissent un petit peu lisses à la fin. je pense que je vais bien les user. Voilà, donc là-dessus c'est un point. Donc après le matériel, j'ai fait la liste complète, combien ça a coûté, enfin je voudrais faire un, j'ai pas fait le calcul précis, si vraiment je devais dire, je pense que ça m'a coûté en matériel divers et variés, ça a coûté aussi cher qu'en achat de vélo. Grosso modo, parce que le compteur, j'avais dit, il y a 79€ de compteur, j'ai pas payé cher, mais il y avait aussi le porte-compteur pour fixer sur le guidon, donc qui lui coûte 20 ou 30€, enfin voilà, ou une vingtaine d'euros, donc on va dire qu'on a 100€ de compteur, 120, peut-être 130€ de sacoche. Les chaussures, j'avais acheté un premier modèle, j'avais acheté des pédales, mais on m'a posé la question, et puis j'avais acheté des chaussures, mais il se trouve que ces chaussures-là, j'en reparlerai après, j'ai acheté en solde, c'était une bonne affaire, sur route ça va, mais sur ces aventures-là, ça va pas, donc j'ai acheté un deuxième, et ça je vous en avais parlé dans l'épisode juste avant le Gravelman, donc tout l'épisode sur ces sortes de chaussures, donc ça m'a coûté un peu plus cher en chaussures, on va dire peut-être 150€ de chaussures au total. Mais si j'avais pu acheter le premier modèle, en fait le modèle avec lequel j'ai fait, il coûte 90€. Donc voilà, donc j'aurais pu économiser un peu là-dessus. C'est l'expérience aussi qui fait les choses. J'ai acheté la veste, j'avais un pantalon de pluie que je n'avais pas utilisé, les chambres à air, des monte-pneus, des lumières, petit matériel d'entretien, les sacoches, j'en ai parlé, les gants, qu'est-ce qu'il y avait bah, j'avais acheté le pantalon de course, le casque, les lunettes. Si, j'avais des lunettes. Alors, j'ai pas utilisé des lunettes transparentes, j'avais utilisé au cas où, la nuit, pour se protéger, s'il faisait froid ou quoi que ce soit. Enfin, mais 5 euros, j'ai pas pris des grands trucs et tout, pas des verres correctifs ou quoi que ce soit. Donc, l'un dans l'autre, plus les frais d'inscription. Encore que moi, sur l'alimentation aussi, je peux pas dire que, bon, j'ai acheté des gâteaux, j'ai acheté le burger, il m'a coûté 11 euros, je crois, la pause. Apiron, ma commandé partenaire et qu'on fait le podcast en sens pour la nutrition, m'avait envoyé du stick de miel, m'avait envoyé des différents produits, notamment la fameuse barre de, enfin la fameuse boisson d'effort, Nutripure, les électrolytes. Enfin, j'avais des barres aussi Nutripure. Enfin, l'un dans l'autre en fait. Hein, si on regarde un petit peu le truc. Même si j'ai pris beaucoup plus de barres, en fait, j'ai pas utilisé les barres Nutripure, j'ai utilisé les électrolytes et j'ai utilisé les barres Apiron. Donc en fait, j'ai vraiment carburant en Apiron et puis Tagada et tout. Si on prend l'ensemble, je pense que si je faisais un calcul, si je devais valoriser en fait entre ce qui m'a été offert, dont je rappelle le vélo d'ailleurs, hein, le vélo c'est un cadeau de la communauté, je vous remercie, et donc il y a une partie de ce que je parle de dépenses qui fait partie en fait du cadeau de départ. Plus, en fait, grosso modo, tout le petit matériel acheté, plus un peu le déplacement, etc. Je pense que, grosso modo, ça fait, ça double le budget. Donc, on va dire, si vélo, c'est 1200 euros, on va dire que, global, ça coûterait peut-être entre 2004, 2005 euros, peut-être, pour faire ce Gravelman, mais pour partir de zéro, en fait. C'est-à-dire de partir de « je n'ai pas de vélo » à « je fais la course ». Donc, avec « tout est équipé ». Quand je dis « tout est équipé », c'est cuissard, c'est pantalon, c'est des gants, c'est un t-shirt, c'est enfin un t-shirt avec des poches pour pouvoir mettre des trucs dedans. Enfin, c'est la veste qui était pas adaptée parce que mes vestes de course, en course, on a chaud. Alors qu'en vélo, on a plutôt froid. Ben, toutes ces différences-là et tout. Donc, tout ça ajoute. Sur le prochain Gravelman, le Paris-Deauville, forcément, il y aura le coût d'inscription plus cher. Il y aura le transport pour la Paris. Et encore que, en me débrouillant bien, je pense que ça reviendra pas très cher en train. Mais j'aurais pas besoin de racheter la veste, les éclairages sont achetés, les batteries sont achetées, les sacoches sont achetées. Enfin voilà, je veux dire que c'est aussi ça qu'il faut relativiser un petit peu le prix. La chambre à air, bon, il y aura le changement de pneus, mais les chambres à air sont achetées de rechange, sauf si je crève trop. Enfin voilà, on sera pas non plus. Ça va pas régénérer à chaque fois le même volume d'achat. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, sinon on s'en sort plus. Renaud m'a demandé, je souhaite connaître le type de chaussures et pédales que tu as utilisé pour ce Gravelman. Alors, les pédales, ce sont des pédales Shimano SPD, système SPD, donc les pédales automatiques là, tac, qui s'enclenchent. Avec, il y a des cales pour mettre sous les chaussures. Donc voilà, bah, là aussi, hein, fait partie. Une paire de pédales, ça coûte 30 ou 40 euros sur ce que vous prenez, voire beaucoup plus cher. Les cales, ça doit coûter 20 euros. Donc j'avais deux jeux de cales. Un jeu de cales sous mes anciennes chaussures, un jeu de cales sous les nouvelles, parce que comme ça me permet de passer d'une paire de chaussures à l'autre suivant ce que je veux faire et tout. Parce que j'ai décidé de garder quand même mes chaussures que j'avais achetées au départ. Notamment pour faire des séances gravel route, etc. Celles qui seront moins engagées, moins sur des chemins, etc. Et puis, les chaussures, ce sont celles avec lesquelles j'ai roulé. Ce sont des chaussures de vélo VTT Giro Troop. Alors, Troop, T-R-O-O-P, avec un système de fixation de serrage BOA. Voilà. Et, sur mon, je remettrai le lien dans les notes de l'épisode, mais il y a, j'ai mis le lien vers la page Décathlon, dans lequel, en fait, vous trouverez la référence exacte. Elle coûte 90 euros. Franchement, elles ont un avantage. D'une part, c'est qu'elles sont très larges. Elles sont bien plus larges que celles que les autres, hein, que les vélos. Elles sont plus souples, donc c'est plus agréable de marcher. On peut presque marcher presque normalement. Bon, après, si vous marchez sur du carrelage, vous entendez la petite plaque, mais c'est beaucoup moins glissant que les chaussures classiques qui sont très rigides, etc. D'ailleurs, l'autre jour, j'écoutais un podcast qui parlait du coefficient de rigidité sur lequel il fallait des chaussures très rigides, et je me suis dit, mais c'est l'inverse de ce que moi je fais en course. En course à pied, je cherche des chaussures très souples, et là, les chaussures sont très rigides, hein, surtout avec les plaques carbone, etc. Puis les plaques qui en dessous. Bon, là, c'est vrai que c'est des chaussures qui sont quand même plus souples, que pour marcher, j'ai pas été franchement gêné. Là où j'ai été gêné un petit peu, ce genre de chaussures-là, avec la petite plaque, c'est quand on passait des petits ponts de bois qui étaient tout mouillés, tout humides, etc. Mais d'un autre côté, je me suis déjà pris une gamelle avec des chaussures de trail et des chaussures aussi de cross, donc de course. Hein, donc franchement, je pense que tout pont de bois un peu mouillé et glissant, et donc c'est pas forcément la plaque qui est en dessous qui était un problématique. Je le répète aussi, j'ai vu des personnes faire, notamment une dame, J'avais parlé à un fameux couple là, qui roulait, elle, avec des chaussures, des pédales plates et des baskets. D'ailleurs, elle avait des Altra, je me rappelle. Elle avait même pas les cales au bout des pieds. Et donc, je pense qu'elle a été vraiment, vraiment avantagée sur certaines parties parce que quand il a fallu pousser le vélo, marcher, etc., forcément, elle avait des chaussures qui étaient plus souples, plus confortables, qui avaient plus d'accroche parce que c'était des chaussures de trail. Ça, je pense qu'elle a beaucoup moins galéré par endroit. À l'inverse, dans une partie forêt où il fallait toujours monter, descendre du vélo, il y a des gars qui étaient en VTT, qui avaient des chaussures qui étaient plutôt de belles factures, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que qui avaient des systèmes bois de fixation, qui étaient plutôt très, je sais plus quelle marque c'était, mais c'est de la marque spécialisée vélo en fait, hein, un petit peu. Donc des belles chaussures et tout. Et au bout d'un moment, il a dit ouais, j'en ai marre, j'arrive pas à marcher avec ça et tout. J'en ai ras le, je sais pas comment il a dit ça. Ils en avaient un petit peu marre en fait d'avoir ça au pied et tout. Ils trouvaient que c'était pas très pratique. Alors que elle, je pense qu'avec ses chaussures trail, c'était plutôt pas mal. Et moi, en fait, avec ce mix, c'est plutôt bien passé. Voilà, c'est plutôt bien passé. C'est sûr que faut pas faire 50 bornes avec hein, en marchant, mais en courant, parce qu'en courant c'est pas terrible. Mais en tout cas pour ce problème-là, c'est pas mal. Après, le conseil qui m'a été donné que je n'ai pas suivi, c'était de dire qu'aussi on pouvait, il y avait une solution. Enfin, j'ai failli le suivre au départ, puis j'ai hésité, j'avais demandé renseignements et tout. Et puis finalement, après, on m'a redonné le conseil plus tard, puis je dis, je vais pas changer les pédales. Et c'est pas impossible que je passe sur des pédales mixtes, c'est-à-dire d'un côté le système SPD, donc semi-auto, enfin auto, hein, pour mettre la pédale avec la cale, et puis de l'autre côté, en fait, un côté pédale plate. L'avantage qu'il y aurait là-dedans, bah, d'une part, c'est que le jour où on prend le vélo, vous savez, je vous ai dit, j'ai des clips en plastique que je peux brancher, que je peux mettre dessus, je peux enlever, que je peux desserrer, etc. Donc là, ça reproduirait, mais avec une pédale qui est plus large. En plus, il y a des modèles spécifiques pour le VTT, avec des modèles larges, etc. Il y a des modèles plus spécifiques pour la route et tout. Donc, ça permet, en fait, de dire, sans savoir ce petit bricolage et tout à faire, ben, le jour où je prends le vélo avec des baskets, je peux mettre sur le côté plat. Et puis, le jour où je prends les chaussures de vélo, ben, je prends le côté fixation. Mais aussi, et là, c'est la remarque qui m'a été faite, et je remercie Mathias, qui me l'a rappelé, et qui Mathias me dit d'ailleurs, oui, il m'a mis un message en me disant, alors tu vois, les chaussures, est-ce que je suis de bon conseil, etc. Oui, Mathias, c'était de bon conseil. C'est pour ça que son conseil sur les pédales est aussi intéressant. Il y a souvent, en fait, dans les descentes qui étaient techniques, ou alors dans des passages un peu techniques, y compris en montée, je me suis souvent retrouvé en fait à me dire par besoin de sécurisation personnelle, je défais en fait au moins un pied et je descendais par exemple avec un pied un petit peu dans le vide, un petit peu en l'air, vous voyez, j'avais un pied qui était attaché puis l'autre pied qui était soit posé sur la pédale mais prêt à être descendu en fait sans déclipser, sans avoir faire le mouvement de déclipsage, soit carrément dans le vide à côté, prêt à le poser par terre. Et là en fait, c'est vrai que ce type de pédale serait plus pratique pour le faire. C'est-à-dire que là, il y a même pas le problème et tout. On dit, bah, la descente, à la limite, tu peux la faire en pédale plate. Tac, je me mets en pédale plate. Ça serait pratique. Les moments où il fallait constamment chausser, déchausser et tout. Enfin, chausser, déchausser, ça fait un peu ski, mais c'est un peu le cas. Monter, démonter du vélo. Je pense, en fait, que, on est vraiment sur le même problématique. Et donc, que ça peut être une bonne solution. En tout cas, sur des gravel, des gravelman qui sont engagés comme ça, où il y a beaucoup en fait ce côté en fait se dire il y a des parties techniques, etc. Alors après, j'ai vu des gars dans les descentes qui les parties techniques les ont faites sans problème, etc. Et ça dépend du niveau de tout le monde. Hein. Voilà, ça dépend vraiment du niveau de tout le monde. Ensuite, Seb m'a demandé si mon équipement était adapté. Je dis grosso modo en fait, hein, j'ai eu aucun problème technique. Le vélo, tout allait bien. Bon, il y a des petits réglages de posture à faire. Je pense un petit peu de réglage de selle. J'en ai parlé. J'avais pas fait remesurer parce que comme les chaussures sont arrivées au dernier moment, j'ai pas fait remesurer la position des cales sous les chaussures. Mais grosso modo, j'ai pas eu de problème. Je les ai mises le plus vers l'avant possible pour essayer de repérer à peu près où étaient par rapport à mes anciennes cales que j'avais fait de mesure au laser par rapport aux pieds et tout. Bon, là, voilà. Grosso modo, ça c'était bon. J'ai pas eu de problème technique. J'ai déraillé une fois. Et à un moment donné, j'ai déraillé une fois. Et là, je pense qu'il y a un petit réglage à faire sur le dérailleur, avec l'usure, avec les petites tensions, enfin les trucs comme ça, à force de manipuler tout, hein, à force de faire des kilomètres. Donc là, je pense qu'il y a un tout petit réglage à faire. Et je le remarque en fait, c'est qu'il y a un passage. Et puis c'était ajouté, en fait, c'était amplifié par le problème de la sacoche, c'est qu'il y avait un passage en fait pour passer sur le grand plateau. En fait, j'ai deux plateaux à l'avant. Hein, et pour passer sur le grand plateau, je suis souvent en fait sur le plateau, sur petit plateau, on va dire. Et pour passer sur le grand plateau, donc faut pousser quand on pousse la manette, elle venait cogner des fois de temps en temps dans cette fameuse sacoche. Et ça faisait un passage qui était un peu intermédiaire. Et l'un dans l'autre, Quand il y a eu une secousse ou deux, ça finit par faire sauter la chaîne. Donc j'ai eu un déraillement. Voilà, j'ai déraillé une fois. Ce qui est franchement pas beaucoup hein, sur mon VTT que j'avais dans ma jeunesse. J'ai l'impression que je déraillais tout le temps. Donc là, j'ai pas déraillé. Peut-être aussi un truc à voir, mais ça c'est sûr, Gravelman, il faudra que je vérifie mes plaquettes de frein. Mais le frein, vous savez, je suis un frein à disque hein, dessus. Ça vient aussi que je suis pas très à l'aise dans les descentes. Et avec le poids du vélo, avec mon côté qui était pas à l'aise, et puis à la fin de la dernière descente, j'avais froid et tout, j'ai freiné un peu plus, donc au bout d'un moment, à force de freiner et tout, je pense que ça freinait un peu moins bien, puis il y a une espèce de comportement, en fait, moi déjà, je dois progresser, en fait, dans ma gestion du frein, dans ma manière d'appuyer sur les freins et tout, et puis je pense qu'en fait, il y a un moment donné, quand j'appuie dessus, il y a une espèce de, ça fait comme une sorte de secousse en fait dedans, qui je me dis peut-être que ça vient de l'usure des plaquettes, donc il faut que je fasse vérifier les plaquettes, en tout cas pour vérifier l'usure des plaquettes de frein. Mais voilà, sur le plan de l'équipement, vêtements, aucun souci, mis à part cette histoire de pantalon là qui glissait un petit peu, les chaussures j'en ai parlé, les chaussettes il n'y avait pas de souci, les gants, il faisait froid, peut-être des gants un peu plus épais pour la descente ça aurait été pratique, une veste. J'avais en fait un truc pour mettre dessous la veste en plus pour couper du vent, mais j'avais tellement froid que j'ai pas voulu le mettre en fait, et j'aurais peut-être dû le mettre en haut de la descente, mais si j'avais l'équipement pour le faire, les sacoches, ça allait. Le fait d'avoir pris, alors j'ai eu une bonne idée hein, d'acheter des nouveaux bidons et d'avoir des bidons qui faisaient 950 millilitres chacun, donc presque un litre, c'était une bonne idée parce qu'en fait, au début, j'ai dit dans les deux premières heures, j'ai pas bu, mais en fait, dans les deux heures suivantes, j'ai bu et j'avais bu ma boisson d'effort, mes boissons d'électrolytes. Avant d'arriver à la fameuse étape du hamburger, là le restaurant ils m'ont rechargé les bidons en eau. Moi j'ai mis mes produits etc dedans et donc je suis reparti. Mais derrière ensuite on a roulé pendant 4 à 5 heures sans traverser de village, sans voir de fontaine plus que ça etc. Et donc là j'étais quand même bien content d'avoir 2 litres d'eau sur le vélo. Vraiment là j'étais vraiment content. Là où si j'étais content, c'est de ne pas avoir de sac à dos, de ne pas avoir de poche à eau. Alors peut-être qu'une poche à eau ça pourrait passer. J'avais pas de poche à eau dans le dos. J'avais tout finalement dans mes sacoches. Niveau matériel, c'était plutôt cool. Alors après je me rends compte à quel point ça leur dit le vélo. Parce que pour l'anecdote, l'autre jour après je suis allé laver le vélo, je suis passé au Kärcher, j'ai lavé le vélo. Et j'ai dit mais ce vélo était totalement léger. Et en fait, oui, quand il n'y a plus les sacoches, quand il n'y a plus le truc de matériel, etc., le vélo, j'ai trouvé très léger. Voilà, très léger. Mais c'est vrai que le poids des sacoches, alors je ne sais pas combien pèse sacoche, je n'ai pas pesé le poids du vélo aussi au départ, ce qui aurait été intéressant d'avoir le poids du vélo global. Hein. Je me suis pesé moi un petit peu avant, après, mais là, j'ai pas pesé le poids du vélo. Ça aurait été intéressant d'avoir le poids du vélo global avec l'eau. Donc déjà, si on rajoute l'eau, 2 kilos, si on rajoute les sacoches, plus ce qu'il y avait dedans, un paquet de bonbons, ça doit faire 100 grammes ou 200 grammes, les paquets de produits, etc. Les vêtements, enfin le bout de vêtements de rechange que j'avais une veste de plus au cas où, enfin l'un dans l'autre. Peut-être que, ça, je sais pas, ça rajoute 2-3 kilos de plus. Donc peut-être que le vélo était chargé avec 4-5 kilos de plus, hein, tout simplement. Et ça change un peu, notamment sur cette histoire de guidon. Hein, je dis vraiment, le réglage sur le guidon, s'il y a beaucoup de choses... méfiance sur les descentes un peu techniques, sur les pilotages, etc. parce que ça embarque un petit peu. Et mon histoire que ma sacoche était mal équilibrée, je le sentais aussi dans les virages, parce que forcément, comme ça penchait un peu d'un côté dans certains virages, c'était pas super pratique. Et sur le confort, c'était pas génial. Ensuite, je vais attaquer une série de questions sur le bilan global, on va dire le déroulé, un petit peu différent, questions que j'ai eues sur ce sujet-là. Une question de Kevin qui m'a demandé qu'est-ce qui t'a manqué au cours de ce défi, matériel, nutrition, équipement, etc. Alors en fait, je veux dire vraiment le truc qui m'a manqué, c'est l'expérience. C'est moi, je commence de zéro. J'ai commencé le vélo le 30 janvier. Donc en fait, j'ai commencé le vélo, j'ai commencé le gravel. Donc je n'ai pas d'expérience, vraiment. C'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai fait kilomètre 150, c'est pour aller poser des questions, avoir de l'expérience, acquérir tout. C'est pour ça que j'ai roulé, que j'ai essayé d'avoir le maximum d'heures de selle, que j'ai acheté un ou deux livres, enfin même deux, trois, des livres sur l'entraînement, que je me suis renseigné, que j'ai discuté avec pas mal de monde sur Instagram, etc., que j'ai pris les conseils dans le Amsterdam Running Club aussi, que vous m'avez envoyé plein de conseils, plein de messages, etc., pour me donner des astuces, des conseils, etc. Donc, ça m'a permis en fait d'avoir des informations, mais ça ne remplace pas l'expérience. C'est-à-dire que j'avais l'information théorique de qu'est-ce qu'il fallait, comment ça allait se passer, comment je pouvais m'entraîner, etc. Mais moi, il fallait que je me confronte à la réalité. Et L'entraînement, bon, on s'y confronte tous les jours, hein, rouler de telle ou telle manière. Mais par contre, bah, il y avait cette histoire de technique, là. Je disais les chemins, je m'attendais pas à avoir des chemins si techniques par endroit et tout. Et à un moment, je me suis dit, ouais, mais il y a ces caillasses par où il nous fait passer et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, mais avec toutes ces caillasses, je vais finir par crever. Puis je me suis dit, alors, toute la journée, je me suis dit, non, tu crèves pas et tout. Alors, je sais pas si on peut appeler ça une prophétie autoréalisatrice, mais en tout cas, je disais, plutôt que de penser au fait que je vais crever, je pensais plutôt au fait que non, je ne crèverai pas jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, si on peut croire aux prophéties autoréalisatrices, en tout cas, je n'ai pas crevé. Mais par contre, je n'avais pas l'expérience de rouler donc sur ce type de terrain tout le temps, parce que c'est vrai que moi, j'avais des terrains d'entraînement qui sont plus faciles. Surtout à Vichy où on a des belles pistes cyclables, on a des beaux terrains. Alors même si il y a des endroits où on peut sortir, où j'étais sorti sur d'autres terrains qui étaient plus compliqués, finalement je me rends compte que je n'avais pas tant de ça que ces terrains-là. J'ai plus de chemins avec des. Alors il y a des chemins à tracteurs par endroit, même s'ils sont un peu rebondissants et tout. Par rapport au chemin avec de la pierre volcanique, etc. Par rapport au chemin avec des ornières, par rapport au passage où il y a même des rivières et tout. Là, je n'avais pas en fait cette expérience de terrain très technique. L'autre truc que je n'avais pas, c'est la technique en descente. Donc là, on n'est pas du tout sur matériel et nutrition, équipement, etc. C'est vraiment de la technique en descente qui m'a manqué. Et là, je dis vraiment hein, sur le truc. Ça, c'est un truc que je dois corriger. C'est-à-dire que moi, je dois me sécuriser sur la descente, mais je dois me sécuriser sur le pilotage, etc. Être toujours plus à l'aise dessus, que ce soit même sur des parties routes. Hein. Alors, quand ça descend doucement, ça va. Mais quand c'est des descentes qui sont bien plus engagées, ça me pose problème. Donc ça, c'est un truc que je dois travailler. Et puis, il y a un truc qui m'a gêné au début, c'est rouler en peloton. Et oui, rouler en peloton. Au départ, on part à, je sais pas, 60, 70 sur la trace gravel, peut-être il y a autant sur la trace 120, je sais pas combien on était au total. Bon, imaginez, vous avez 100 cyclistes qui s'en vont comme ça là, et ça fait un espèce de petit peloton. Et puis au départ, on part sur la route. Alors il y en a qui sont partis toute vitesse, il y en a qui sont partis moins vite. Il y a un moment donné, il y avait le gars qui était devant moi, qui s'est mis à régler son GPS. Il s'est mis à ralentir en plein milieu de la route. J'ai fait lui rentrer dedans. Et puis après, sur la première accélération, ça a été un truc. Sur la première descente, il y en a qui ont lâché les chevaux. Et moi, en fait, je sais pas trop comment me placer. J'ai trouvé que la descente, j'ai dit, oh, pour lâcher les chevaux à cet endroit-là, je me sentais pas super à l'aise. En plus, j'avais ma fameuse sacoche qui me gênait. Donc, ce début-là où on était plein de monde à rouler ensemble et tout, j'ai pas trouvé ça. J'étais pas très à l'aise, j'ai pas l'habitude, etc. Autant déjà, même en course à pied, j'aime pas ça. Déjà en course à pied, quand on a des départs de course, par exemple sur le semi-marathon de Vichy, je me rappelle. Quand il y a des gens devant qui tassent un peu, que il y avait un petit passage de pont et tout à faire, déjà moi ça me gêne un peu. J'aime bien contourner, passer par l'extérieur, accélérer, avoir un peu. À être un peu à l'aise, avoir personne juste devant moi, quoi. Avoir un ou deux mètres devant moi pour pas avoir les pieds, pour pas avoir quelqu'un qui peut prendre les pieds derrière ou pas se prendre les pieds devant, pas avoir quelqu'un juste à côté. Et ben là, en fait, je me suis retrouvé dans la situation que j'aime pas, et en vélo, et là où je ne l'avais jamais connu. Donc forcément, il y a un moment donné, j'ai même sur le départ, en fait, j'ai même laissé filer un peu certaines personnes, en fait, en disant bah tiens, je vais laisser filer, je vais prendre plutôt mon temps sur les trucs, et puis après, je finissais par les rattraper sur les montées, j'ai fini par les rattraper sur le plat, souvent, etc. Et puis souvent, ils me redoublaient dans les descentes, et puis on se redoublait sur les pauses, enfin voilà, sur des trucs comme ça. Mais en fait, c'est vraiment ce truc-là, Kevin, hein, qui m'a manqué le plus, c'est cette expérience-là, purement, en fait, j'allais dire, d'expérience de rouler, en fait, dans différentes conditions, terrain technique, descente, rouler en groupe, etc. Tout ça, moi, je ne l'avais pas du tout. Alors après, à la fin, on a un moment, on a roulé à 2, 3, à 3, 4, etc. Il n'y a pas de problème parce qu'on pouvait s'écarter, on pouvait laisser passer, etc. Mais quand il y avait au début toute la masse, moi, j'étais pas super à l'aise. Letty Big m'a demandé, tu as souvent marché à côté du vélo? Ou alors, j'ai pas le calcul, et ce matin j'ai essayé de regarder un peu le calcul, je l'ai pas. Je pense que j'ai marché environ au moins 2 heures, ça c'est sûr, voire peut-être 3 heures. On va dire, allez. Sur, finalement, entre le matin 8h et le soir 21h30 auquel j'arrive, il y a 13h30, donc il y a la pause au milieu, en 30 pauses. Mon Strava considère qu'en fait j'ai roulé 10 heures, je sais plus combien en fait, j'ai plus le temps exactement. J'ai dû rouler, je suis en train de rechercher, j'ai roulé 10h56, voilà. Donc ça veut dire que finalement entre 10h56, le temps de déplacement, et le temps global écoulé 13h35, c'est-à-dire le temps 13h35, hein, il y a eu temps entre le moment où j'arrête où je démarre le GPS et le moment où je l'arrête. 13h35 et je roule 10h56, donc on va dire presque 11h finalement, donc ça veut dire qu'il reste 2h30, il y a eu plus de 45 minutes avec la pause déjeuner au milieu, il y a eu des petites pauses à divers endroits, à divers moments, etc. Et puis je pense qu'il y a des moments aussi où ça avançait tellement doucement, où moi je me suis arrêté pour boire un coup, pour réparer ma selle, enfin des trucs comme ça. l'un dans l'autre aussi, des moments où on n'avançait pas très vite, ou d'ailleurs ceux qui faisaient suivaient le live disaient mais ça avance plus du tout, en fait j'ai l'impression qu'on n'avançait pas. Je pense qu'il y a des moments en fait où même Strava considère que là j'étais arrêté alors que ça marchait tout doucement, vraiment tout doucement. Mais bon, donc je pense que il y a un peu plus que 11 heures de déplacement. Mais on va dire que dans ces 11 heures, grosso modo, je pense qu'il y a peut-être 2 heures ou 3 heures où vraiment il a fallu pousser le vélo en fait, où il a fallu marcher à côté et pousser le vélo. Je pense grosso modo que c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que déjà sur la matinée en fait, avant d'arriver à Conda, là j'avais dit là où il y a les ornières et tout. Au début, j'ai l'impression qu'on va pousser qu'un quart d'heure, 20 minutes, et puis en fait, ça durait au moins une heure. Et puis après le repas dans la forêt, là aussi, à un moment donné, on a bien poussé au moins une heure le vélo. Et puis après, il y a eu la dernière montée au Mont d'Or et tout. Enfin, déjà entre la Bourboule et le Mont d'Or, il y a une grosse montée. C'était un peu galère. Après, il y a eu la montée. Il y a eu une autre montée vraiment très 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 galère et tout. Là, j'ai poussé très longtemps. Après, il y a eu cette espèce de passage là au Mont d'Or, dans le Mont d'Or, avec une espèce de mur où il fallait porter le vélo. Je pense que voilà, l'un dans l'autre, on est bien sur ces temps-là. Et puis, alors, je dis même pas la descente au Mont d'Or, en fait, parce que j'ai parlé de la montée, mais j'ai pas dit de la descente. À un moment donné, il y a des descentes qui étaient vraiment assez techniques, assez glissantes. Et puis moi, en plus, la nuit tombée et tout, j'étais pas très à l'aise. Où il y a même un bout de la descente où j'ai dit bon, là, je vais faire à pied sur ce passage-là et tout. Donc, je pense que j'ai dû marcher. Allez, on va dire 3 heures. Voilà, on veut dire 3 heures. À peu près, c'est ce temps-là, je pense que j'ai marché à peu près 3 heures à côté du vélo. Voilà, c'est aussi pour ça que je dis que dans la préparation, il faut le prendre en compte, qu'on n'est pas que sur une aventure purement, en tout cas sur la trace gravel, on est sur de l'aventure. Hein. On n'est pas que sur l'aventure vélo, on est sur de l'aventure globale. Et que dans l'aventure globale, il y a des moments où le vélo, il faut le pousser d'une manière ou d'une autre. Aline qui me demande, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile pendant la course ? Je crois que c'est justement... C'est ce côté de monter et descendre du vélo, notamment à la fin, où je dis, voilà, par où il nous fait passer, il aurait pu éviter ce truc-là et tout. Bon. Ces moments, en fait, sur certains passages où il fallait monter, descendre du vélo, monter, descendre du vélo, monter, descendre du vélo, etc., où c'était glissant et tout, on se disait, mais... Et en fait, il y avait un petit groupe qui était devant moi à un moment donné aussi dans la forêt, là, on en a marre de monter et descendre, il y en a un, il dit, ouais, moi, je pousse le vélo tout le long, je vais même plus remonter dessus, je vais attendre un peu que ça puisse se remettre à rouler. Et c'est, en fait, ça paraît pas, mais c'est de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Constamment ce geste et tout, au bout d'un moment, j'ai trouvé ça que c'était un peu lassant, en fait, tout simplement. Et puis, il y avait des montées qui étaient un peu raides aussi, où je vais m'arriver à les passer et tout. Donc, descendre du vélo parce que j'arrivais plus à monter, parce que c'était trop raide et tout. Et donc, c'est monter, descendre, monter, descendre du vélo. Remettre les cales à chaque fois, enfin, remettre les cales, reclipser. Et puis se dire, ouais, mais en fait, j'avance que de 10 mètres. C'est là où je me dis, bah tiens, si les chaussures, j'avais pas eu de cale dessous, peut-être que ça aurait été plus pratique, ça aurait moins gavé, quoi, au bout d'un moment. Mais c'est le jeu, en fait, c'est le jeu. Mais vraiment, je le dis, je pense que c'est ce passage-là. Et à un moment donné, en fait, j'ai opté pour carrément plus monter dessus en me disant, bah de toute façon, j'ai beau monter sur le vélo, dans 50 mètres, il faut redescendre. Et j'avais le sentiment que ce qui me fatiguait le plus... c'était de monter, descendre le vélo, c'est-à-dire lever la jambe pour monter, lever la jambe pour descendre, etc. Que c'était ça qui était le plus fatigant et que c'était finalement moins fatigant de se dire, de prendre le parti, de dire, bon allez, maintenant, là tu marches quoi. Tu marches à côté du vélo, tu le pousses, tu choisis la meilleure trajectoire pour le vélo, pour le pousser, pour qu'il n'y ait pas trop de cailloux et tout, s'il faut le porter. C'est là aussi on voit le poids des sacoches, le poids du matériel. Hein. S'il faut porter le vélo, c'est aussi ça hein, qui rajoute des choses. Voilà, je crois que c'est pour moi, c'est ce truc-là le plus difficile, c'était vraiment de dire... monter, descendre du vélo et tout par des endroits où, là où, c'est vrai que quand on se fait une idée, on se dit, bah, en fait, on va faire du vélo, on va rouler, on va essayer de rouler à une moyenne, on va dire, on va rouler à combien? À 13, 14 à l'heure, peut-être 15 et tout. Et puis que le premier passage, on se dit, attends, je suis même pas à 10 sur la moyenne. Et puis, la deuxième heure, je suis encore à 10. Et puis ensuite, il y a des moments où je dois être à 3 ou 4 à l'heure. Et puis, il y a des moments où ça se remet à rouler. Après, il y avait un plateau. Ah ouais, là, ça a roulé. C'était un régal, quoi. Mais il y a eu cette alternance, en fait, de moments où on se dit, mais finalement, je n'avance plus du tout. J'ai l'impression que je n'avance plus du tout. Et c'était surtout sur ces moments-là, il fallait monter, descendre du vélo. Je pense que c'était ça qui était le plus difficile, en fait, à gérer. Alors, AB à Pierre me demande, alors plus dur ou moins dur que prévu, ce qui t'a surpris dans l'expérience. Alors, plus dur, plus technique, je dirais. Ce qui m'a surpris, c'est la technicité du parcours. Et vraiment, Et puis il y a un truc aussi, mais ça c'est une très bonne surprise, c'est la capacité qu'a Steven à trouver des traces qui semblent mener nulle part mais amènent dans des super endroits. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est passé dans des forêts en fait, en disant il y a un petit chemin, on se dit mais comment il a fait pour trouver ce chemin là et puis en bas du chemin on arrive dans une forêt magnifique avec des beaux arbres, des belles couleurs, etc., un truc vraiment super agréable et tout. On se dit mais comment il a fait pour trouver ce truc là quoi, vraiment. Et puis à un moment donné, après il nous repasse dans des trucs vraiment pénibles et on se dit attends, s'il nous fait passer dans ce truc pénible là, peut-être qu'à l'arrivée, qu'à la fin de ce passage pénible, il y aura un truc sympa, etc. C'est un peu, c'est ça aussi qui m'a surpris, en fait. C'est sa capacité à avoir trouvé des traces, à avoir trouvé des passages en se disant, mais non, là, ça passe pas. Puis en fait, si ça passe, ça se connecte à ce truc-là. Puis de se dire, mais en fait, j'ai fait un chemin incroyable. On est parti du Puy-de-Dôme, on est allé dans le Cantal. Quand je vois un peu le chemin qu'on a fait et tout, je me dis, mais en fait, normalement, on passe là par des routes. Et puis là, il nous a fait passer par un lac. Je dis, tiens, ce lac, j'en entendais parler tellement souvent. Bah, tiens, là, on y est passé. Mais, d'habitude, j'ai l'impression qu'on passait par là. Il y a même à un moment donné, où ce qui était très drôle en fait, où je me suis retrouvé dans un, bah c'était l'après-midi d'ailleurs, c'était pas très loin de là où l'équipe de Steven Lurie qui avait a fait un petit ravitaillement. Et à un moment donné, je dis, c'est bizarre, je pense que je suis déjà passé par là. Mais vraiment en fait, je disais, mais je suis déjà passé par là, cette route-là, je la connais, etc. Je me dis, je crois que j'ai un client qui habite ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je faisais j'avais des clients en conseil et tout sur les réseaux sociaux, j'étais venu voir 2-3 fois un client qui m'était envoyé par la CCI, et je me suis dit, mais en fait, je crois que mon client, il habite là, cette route-là, j'ai déjà prise, mais en voiture. Et puis je me dis, bon, après, on roule et tout, puis on prend la route, et je dis, bon, ça arrive pas là. Et puis après, on prend un chemin, puis un autre chemin, puis on roule et tout. Et à un moment donné, on tombe sur une route, et on arrive face à une maison, et c'est la maison du client. Alors, ce qui est drôle, en fait, c'est que quand j'ai regardé la carte, effectivement, entre le moment où je me suis dit, je crois qu'on n'est pas loin de chez lui, et le moment où on arrive vraiment devant la maison, il y a peut-être 1h30 à fameux pousser le vélo, prendre les petits chemins, etc. et tout. Vraiment, ce truc-là. Mais c'est vrai que c'est la capacité à dire, là, on a pris un bout de route, là, on prend un bout de chemin, on passe dans des trucs, on fait des choses comme ça, etc. Vraiment très surprenant. Puis après, il nous a fait traverser un champ aussi à un moment donné, il fallait même ouvrir les barrières, j'ai cru qu'on s'est trompé. Enfin, après, j'ai vu qu'il y a des traces de vélo partout, donc je me dis non, c'est la bonne trace. Donc c'est ça, en fait, hein, qui est surprenant, c'est la capacité, finalement, qu'il a en fait à trouver des passages en dire bah tiens, je vais les faire passer là, ça va être drôle, etc., là ça va être aventureux, là ça va être plus technique, ça va être plus. Puis après il y a des moments où on fait ouah tiens, c'est la vue est magnifique, la route elle est magnifique, il y a des routes. En fait, quand on arrive à Conda, à un moment donné, une discussion, et puis avec la patronne du resto, puis avec un gars qui roulait, et on se dit mais c'était magnifique là-haut sur le plateau et tout. Et je dis ouais, mais je dis enfin on a longé des maisons, il y a des fermes et tout. Et on dit, mais en fait, les routes sont magnifiques, mais alors vraiment, si on n'était pas passé en vélo, on n'a aucune raison de passer par là. C'est-à-dire que c'est des endroits où on dit, il n'y a aucune raison de passer par là. Et en fait, il a réussi à connecter différents points, différentes zones et tout, pour faire un tracé qui est vraiment, qui est chouette en fait, hein, une grande trace, en mixant des chemins, en mixant de la route, en mixant des beaux passages, des passages techniques, des passages plus compliqués, en faisant découvrir plein d'endroits, parce que les gens qui connaissaient pas, ils ont découvert des lacs, ils ont découvert des villages, ils ont découvert plein de passages et tout, des petits restaurants, ils ont découvert plein de passages. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est vraiment surprenant. Et après, bah, le plus dur, hein, je l'ai dit, hein, c'est la technicité du parcours, c'est le monter, descendre du vélo, etc. en permanence. C'est là de se dire, hein, par rapport à cette anecdote du client, c'est de dire, bah finalement, si m'avait laissé sur la route, en un quart d'heure, j'y étais. Pourquoi il nous a fait passer par ce truc-là, par ce détour, etc. comme ça. C'est ça qui était surprenant et dur aussi. Voilà. Natacha qui m'a demandé, est-ce que la technicité du terrain n'était pas trop difficile pour un débutant en gravel? Alors trop, je ne sais pas, car finalement, je suis passé partout. Donc finalement, trop, non. Ah non, parce que la preuve, c'est que je suis passé. Enfin, moi, je considère que ça serait trop si je n'étais pas passé, si j'avais été bloqué, si je n'avais pas pu avancer comme je voulais, etc. Donc le trop, je ne considère pas que c'était trop. Je dis qu'en fait, c'est juste qu'il faut s'y préparer. J'étais pas assez préparé. Donc plutôt que le trop, en fait, c'est de dire pas assez préparé. C'est-à-dire que il y a des, quand on regarde les résultats de la trace et tout, il y en a qui arrivent bien plus tôt que moi, en fait. C'est-à-dire que pour eux, le truc, la technicité du terrain ne leur a pas posé problème. Ils ont roulé beaucoup plus vite, ils sont passés beaucoup plus vite, ils ont plus d'expérience, ils ont plein de choses, etc. Donc le terrain en lui-même, il est pas trop, il est, c'est vrai, je pense, très engagé. Et que pour un débutant, en fait, eh ben, s'il y a un débutant qui fait du gravel, mais que sur des grands chemins, de la route, et qui fait pas des chemins un peu techniques, etc., même moi, en ayant fait un peu de chemin technique, en essayant d'aller sur des trucs où il y avait un peu de caillasse, où il y avait un peu de, un peu des différents trucs, etc., des arbres, de la forêt et tout. Même en faisant ça, en fait, je me suis dit, je suis jamais passé sur un terrain aussi technique que ce qu'il a proposé là. Donc, je pense que c'est pas trop par rapport aux débutants, c'est trop par rapport au niveau d'entraînement qu'on peut avoir. Et que, bah, si on s'entraîne que sur des terrains qui sont faciles, et ben là, on va être embêté, quoi. On va vraiment être embêté. C'est plutôt, pour moi, c'est vraiment ça, en fait, c'est quel niveau de préparation on est capable de se mettre. Parce que même si on débute, j'ai envie de dire, un débutant qui s'entraîne sur des terrains techniques, le terrain, là, il paraissait normal. Mais un débutant ou même quelqu'un qui est expérimenté mais qui ne fait que de la piste cyclable, il aurait trouvé que c'était trop. Et d'ailleurs, c'est la discussion qu'il y avait avec Steven. Il disait, ouais, mais il dit, franchement, si tu restes sur la piste cyclable et sur les petites routes, il n'y a aucune aventure. Il n'y a pas d'aventure. L'aventure, c'est justement de passer sur ces chemins, passer sur ces zones-là, passer sur ces trucs techniques, passer à des endroits où normalement tu mets pas le vélo. Donc voilà, il faut être prévenu. C'est la logique de Steven Lejarric. Il faut être prévenu là-dessus. Et ça fait partie, en fait, vraiment du jeu et de l'expérience. Ensuite, j'ai eu des questions sur le mental. Alors, j'ai eu pas mal de questions sur le mental. Donc, Christophe qui me demande les différences au niveau des émotions et du mental par rapport à un gros trail, par exemple. Alors, c'est... Pour moi, c'était... Il y avait une émotion parce que c'était une préparation où je pars de zéro. Et donc, c'est ce que je dis au sommet de la Croix, quand je passe le col, le dernier col. Quand je passe ce col, en fait, forcément qu'il y a un moment donné, moi j'ai le col de la Croix-Saint-Robert, j'ai cette émotion là de me dire, bah, il y a pas si longtemps que ça, en fait, j'étais débutant total, quoi. C'est-à-dire que j'étais vraiment débutant et que ce truc là, en fait, je rêvais de faire, j'avais envie de faire du vélo, j'ai envie de faire du gravel, j'ai envie de découvrir ce qu'était le vélo. Et quand j'arrive au sommet de la Croix-Saint-Robert, en fait, ce qui pour moi, en fait, est mon émotion qui remonte, c'est justement cette émotion de dire, j'ai réussi à faire un truc que je me sentais pas capable de faire, que j'ai réussi à faire, mais je m'en sentais vraiment pas capable, mais là j'ai réussi à le faire, et ça c'est l'émotion. Et c'est une émotion que tu peux ressentir, en fait, sur n'importe quelle course, en fait. J'ai envie de dire que c'est l'émotion de la première fois, c'est l'émotion du débutant, c'est l'émotion du novice, c'est l'émotion que j'avais... Alors peut-être pas sur mon premier 5 km, mais sur mon 10, pour mes 40 ans, le jour de mon anniversaire, j'avais fait un 10 km. C'était l'émotion de finir un 10 km pour mon anniversaire, le courir en moins d'une heure. L'émotion que j'ai eue sur mon 24 heures, ben, encore pour mon anniversaire, était immense. L'émotion de mon marathon, parce que c'était le marathon, parce que ça faisait des mois que je le préparais, parce que j'avais échoué dans la préparation, parce que c'était un projet que j'avais lancé presque 2 ans avant, finalement, dans la préparation, le moment où je l'annonce et le moment où finalement je le cours, il y a 2 ans qui se passent. J'avais aussi beaucoup d'émotions, et puis parce que ça validait aussi mon parcours. Là aussi, ça valide de quel côté mon parcours, ça valide le fait que il y a quelques années, j'étais un gros hamster, je faisais 105 kilos, voire 107, que j'ai perdu du poids, que j'ai rééquilibré, que j'ai réussi à m'entraîner, que j'arrive à courir tous les jours, que j'arrive à rouler régulièrement, que j'arrive à préparer des nouveaux trucs. Et vraiment, en fait, l'émotion, elle vient de se dire, il y a quelques temps, ça, j'étais incapable de le faire. Ça, j'aurais jamais pu le faire il y a quelques temps, quelques mois, ou même quelques semaines, en fait. Là, je parle de quelques semaines sur le vélo. C'est-à-dire que si on reprend, en fait, si on calcule février, mars, avril, mai, donc 3 mois et demi, ben, 4 mois avant, enfin, on va dire 4 à 5 mois avant, je suis même dans l'incapacité de me dire, je vais faire un gravelman parce que je n'ai pas le vélo, je n'ai pas le matériel. Et en fait, c'est tout ça qui remonte. Et je pense qu'en fait, l'émotion, sur des courses, moi j'ai vécu l'émotion départ du marathon parce que il y a tout qui remonte par rapport à mon parcours. L'arrivée du marathon, il y a tout qui remonte par rapport à mon parcours. Sur des trails, j'ai eu des trails, mon tout premier trail, j'avais la peur au départ, j'avais l'émotion de l'arrivée parce que c'était mon tout premier trail, mon premier dossard. Je l'avais. Sur mes courses anniversaires, le 10 km et sur le 24 heures, j'avais cette émotion de me dire je suis capable de faire un truc que je me sentais pas capable de faire. Mais la grosse émotion que j'ai eu sur mon 24 heures, par exemple, c'est le passage des 100 km. C'est le passage des 100 km dans la nuit, de me dire oh, j'ai fait 100 km. J'ai réussi à faire 100 km. Qui était pour moi un truc qui me semblait invraisemblable au départ. J'ai réussi à faire 100 km. Et puis l'émotion aussi de rencontrer Jean-Claude, le vieillard galopant à la fin, avec lequel on discute et on passe la ligne d'arrivée ensemble. Voilà, ça c'est des émotions. Et je pense qu'en fait, je voudrais pas comparer en disant ouais, par rapport à un trail, un gravelman, un marathon ou quoi que ce soit. Je pense que chacun va chercher des émotions par rapport à ce qu'il fait et tout. C'est sûr, quand on a fait 5 ou 6 marathons, bah l'émotion peut-être à l'arrivée d'un marathon est peut-être un peu différente ou un petit peu enfin quoique peut-être, en fait, si vous avez une grosse préparation, si vous avez un parcours particulier, si vous êtes blessé, elle peut être différente en fait. Je me rappelle aussi sur un trail qui devait faire 29, qui s'est transformé en trail de 36 km. J'avais ce trail où on s'était perdu. À la fin, j'ai l'émotion d'être arrivé au bout, alors qu'il faisait super chaud, qu'on a fait se tromper, partir sur une trace vélo de 80 bornes. Alors, au lieu de faire 29, on aurait fait 90 km, je crois, un truc comme ça. Donc finalement, on arrive à récupérer. On en avait vraiment, vraiment galéré dans la chaleur et tout. On était un petit groupe de trois. Puis à la fin, finalement, on se rend compte que en coupant le parcours pour rentrer, il nous avait donné le chemin pour rentrer. On avait dit les pompiers voulaient nous ramener. On disait non, mais nous on va rentrer en courant. L'émotion d'avoir fini ce truc-là était super importante en fait aussi. Donc je me rends compte que finalement on peut aller chercher les émotions dans plein de trucs. Je peux dire aussi par exemple, j'ai de l'émotion quand j'ai terminé l'an dernier mon 496 challenge, le jour 31 quand je fais les 31 km et que je boucle le 496 challenge, c'est-à-dire que je fais 509 km dans le mois de janvier. J'ai de l'émotion pendant toute la journée où je fais ça. J'ai l'émotion à l'arrivée quand je suis dans ma dernière montagne, mais j'ai l'émotion aussi quand je vais courir dans les zones où je courais où je faisais du sport quand j'étais gamin, etc. Et donc ça, c'est un point qui est important. Et puis sur le mental, en fait, je pense que ça change pas grand chose en fait en soi, parce que pour chaque événement dans lequel on a progressé, on se met par rapport à nos objectifs, on se dit bah tiens, je vais faire ça, je suis capable de le faire. J'ai ma zone de confort, ma zone de connaissance, ma zone d'inconnu. Ma zone d'inconnu, par exemple, je l'avais dit sur le 24 heures, c'était de passer la barrière des 42 km. Donc passer dans la barrière de l'ultra, on avait parlé avec à une époque avec Phil Ufo de cette histoire-là, de dire bah quand on passe la barrière des 42-195, on rentre dans un monde que certains considèrent pas de l'ultra, mais qui finalement fait partie de l'ultra, enfin qui nous amène vers l'ultra. Et puis après la barrière des 100 km. Et finalement, mentalement, je m'étais préparé à dire mais qu'est-ce qui va se passer au-dessus, et sur les émotions, mais sur le mental, dire je me prépare à ça, à courir ça. Et là, je m'étais préparé à rouler, à me dire pour me sécuriser, il faut que je roule 100 km sur une journée pour voir ce que c'est, faire un grand fondo, etc. Donc là, j'ai pas pu le faire. Donc j'avais une incertitude. Et à partir du moment en fait où j'ai commencé, je l'ai fait. Hein, vous l'avez entendu dans l'épisode de la semaine dernière. Quand je passe la barrière des 80 km, je me dis bah là je suis rentré dans l'inconnu. Ça j'ai jamais fait. Donc à partir de ce moment-là, tout est nouveau pour moi. D'ailleurs le mal de fesse est arrivé à peu près à ce moment-là. Un mal aussi dans une main, tout un peu l'épaule, etc. Mais c'est ça aussi en fait. C'est-à-dire que le mental, il y a des zones de connu, puis il y a des zones dans lesquelles on rentre dans un bout de truc là où on sait pas trop où on va, on est un peu dans l'inconnu. Et je pense que c'est pas une question de différence par rapport à un trail ou quoi que ce soit, c'est par rapport en fait à ce qu'on connaît, ce qu'on a préparé, comment on l'a préparé, l'histoire qu'on a eue. Parce que par exemple aussi quand je m'étais cassé le coude il y a longtemps, je m'étais cassé le coude en sortant mes poubelles, c'était début janvier, et j'avais un trail mars, et je me rappelle bien de ce trail parce que c'est le Vulcain, et le Vulcain qui part de Volvic. Et donc, je faisais le 13 km dans un temps mais épouvantable, et je m'étais pas entraîné parce que je m'étais cassé le coude et le coude était bloqué, donc j'avais pas le droit de le bouger, c'était la tête qui était fissurée, j'avais interdiction de le bouger, donc je pouvais marcher mais j'avais pas le droit de courir. J'ai demandé à ma kiné, j'ai dit pensez que je pouvais courir la course, elle m'a dit oui tu peux y aller, mais attention, s'accroche pas aux branches des arbres, on tire pas trop dessus, on me protège un peu au cas où. Donc j'étais allé le courir. Et j'avais fait juste une séance de course avant, j'avais beaucoup marché, puis j'avais fait une séance de course qui était pour moi en fait pour me dire bah tiens, je vais quand même courir avant de faire ce 13 km. Et je me rappelle de l'émotion que j'avais ressentie sur une montée en me disant waouh, mais je suis capable de remonter, enfin même si je me suis pas entraîné, je suis capable de monter ce truc là. J'avais réussi à monter assez bien et tout. J'avais eu cette émotion là. Sur un trail nocturne aussi, j'avais eu l'émotion d'arriver à passer à la barrière horaire à 3-4 minutes. C'était la nuit du diable à Châtel-Aiguillon. Donc, et puis après, j'ai eu l'émotion aussi, je m'étais pris un gamin dans la forêt, puis il y avait une fille qui gueulait, qui encourageait tout le monde, allez, traînez pas et tout. Et je m'étais rendu compte qu'elle n'avait pas passé la barrière horaire, donc elle avait fait 5-6 km de moins. Et en fait, j'ai eu l'émotion de la doubler, de me débarrasser de sa voix qui criait, en fait. Et à l'arrivée, en fait, il y avait l'émotion, des fois, c'est l'émotion de la musique, en fait, et tout. Et par exemple, hier, donc pour mon jour, 666e jour de course, j'ai fait 1 km de natation, j'ai fait 66,6 km de vélo et 6,6 km de course à pied. Et ben à la fin, j'ai l'émotion d'avoir terminé ce truc-là, qui était pour moi en fait mon premier triathlon off, d'une manière ou d'une autre, alors qui est pas sur des standards de distance classique, etc., qui est pas fait en enchaînement pile poil, parce que j'ai rajouté de la marche pour aller à la piscine à pied, pour revenir de la piscine à pied, puis en avant pour aller tout. Donc j'ai rajouté pas mal de marche, etc. au-dessous. Mais par contre, j'étais content, mon émotion de courir à une vitesse en fait qui était proche de mon allure marathon, et là ça m'a surpris, et mentalement en fait c'était plus facile peut-être que mon premier trail de 13 km, parce que mon premier trail de 13 km j'avais les pétoches. Là on peut dire que pour Gravelman j'avais pas vraiment les pétoches, j'avais dit hein, je me sens prêt parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai fait de la préparation mentale, je suis certifié en préparation mentale, et donc je me suis appliqué certaines méthodes, que j'avais fait une préparation qui était sérieuse, que j'avais aussi des personnes comme Madeline, etc., qui m'a dit ouais non mais c'est bon, écoute, t'es prêt, après faudra pas lâcher pour le 350, mais là t'es prêt sur celle-ci, rassure-toi. J'avais eu les témoignages des invités hein, je pense à Gwénoline par exemple, je pense à toutes les invités que j'ai eues qui m'ont dit oui mais tu peux découper en petits morceaux, oui tu seras prêt si t'as tant d'heures de sel, etc. et tout. Vraiment ça m'avait rassuré. Donc là finalement en fait mentalement c'était plus facile que d'autres courses qui étaient beaucoup plus courtes, donc c'est pour ça que je peux pas faire vraiment de comparaison. Et une autre question sur laquelle je peux pas faire de comparaison, c'est la suivante, c'est Laurie qui me demande: si tu devais à vie choisir entre courir et pédaler, que choisirais-tu et pourquoi? Alors là franchement je crois que j'aime les deux. Je pense en fait que le côté vélo a un côté très grisant en fait, on peut jouer avec la vitesse, on peut s'amuser beaucoup, etc. C'est pas facile non plus hein, et puis il y a des contraintes matérielles et des contraintes techniques. Le côté course à pied, on prend les baskets, on s'en va. Voilà, c'est une extrême facilité, et encore des fois je cours même pieds nus. C'est d'une extrême facilité, le matériel est moins cher, il y a moins besoin de matériel quand même, il y a moins de contraintes techniques, il y a moins de logistique quand on va sur un endroit, etc. Mais par contre, on découvre moins de terrain, on a moins la vitesse, moins la sensation de vitesse, même si par exemple en courant, j'aime bien courir dans des descentes pas trop pentues, j'aime bien avoir cette sensation de vitesse, de laisser courir les jambes sans devoir les freiner. Mais en vélo aussi, on peut le faire, rouler en vélo... hier à un moment donné j'ai fait une pointe à 40 sur une route, j'étais comme un gamin quoi, vraiment comme un gamin. Mais je suis aussi comme un gamin quand je saute dans une flaque de boue, quand je cours pieds nus, je suis aussi comme un gamin quand j'arrive voir le lever de soleil à un endroit, enfin donc je peux pas choisir en fait. Laurie, je peux pas choisir. Je peux dire en fait c'est que je crois que le vélo est plus compliqué à gérer sur le plan de la logistique, qu'il permet par contre de voir plus de territoire, il permet d'explorer plus de choses, il permet d'aller plus loin, il permet de se plonger dans des aventures différentes. Par exemple, là, quand je dis que la semaine prochaine, je vais voir Hermano, c'est sûr qu'en courant, à Hermano, il me faudrait... en courant 60 bandes par jour, il me faudrait 3 jours. Là, je me dis, je peux le faire en vélo en une fois, donc c'est une aventure différente, etc. Enfin, voilà. Je pense que c'est difficile de choisir, que on a des terrains d'expression qui sont un peu différents, qui sont très complémentaires. Je me rends compte à quel point j'ai progressé en course à pied depuis que je fais du vélo, mais je me rends compte aussi à quel point la course à pied m'a aidé à faire du vélo. Et notamment, alors il y a sur les questions mentales, il y a les questions de préparation, mais le fait d'avoir réussi mes défis course à pied m'aide aussi en fait à envisager mes défis vélo plus sereinement. Et le fait de faire du vélo, je vois ma progression en course à pied. Et je vois aussi ma capacité à enchaîner, hein, d'avoir fait des séances où on a enchaîné une séance de vélo et une séance de course à pied l'une derrière l'autre. Je vois aussi à quel point ça a été bénéfique. J'en ai parlé dans les préparations, j'en ai parlé un petit peu. Donc grosso modo, je crois que je peux pas choisir, Laurie. Je peux vraiment pas choisir. Et Jean-Yves qui me demande, est-ce que tu étais un peu frustré à l'arrivée, envie de continuer ou bip, et t'en avais ras le bip, voilà. Jean-Yves, en fait, j'en avais pas de... J'étais pas frustré à l'arrivée, que ça se finisse, parce qu'en fait, j'avais froid. Quand j'arrive au bout, je me caille, en fait, j'ai froid, il y a eu 13 km de descente, et dans les 13 km de descente, ma seule attente, c'était de se dire, quand est-ce qu'on arrive sur du plat à l'abri du vent, et que je vais pouvoir à nouveau me mettre à pédaler plus, à recréer un peu de chaleur en fait avec mes muscles, etc., pour arriver à me réchauffer. Et en fait j'ai pas réussi, et d'ailleurs même j'arrive pendant je pense c'est Anne-Sophie, elle me demande si je veux boire un truc, je dis une tisane, un truc chaud et tout pour me réchauffer. J'ai mis beaucoup de temps à me réchauffer, j'ai grelotté un bon bout de temps, j'ai mis du temps à me réchauffer, et en fait non, j'étais pas frustré en fait de me dire j'aurais pu faire 350, j'aurais pu faire ça, etc. Parce que en fait, je me rends compte que c'était une gestion différente, que pour faire 350, je suis pas prêt encore sur la partie préparation, sur la vitesse, que je me disais 350, il faut le faire en 2 jours, faut prévoir un peu plus de logistique, prévoir où dormir. Là, il y avait ce côté froid aussi qu'il y avait à gérer. L'un dans l'autre, J'étais, c'était bien en fait. Voilà, c'était bien. C'était le moment que ça se termine. Il faisait nuit et tout. J'étais content. J'en avais pas ras-le-bol. J'avais froid, mais j'en avais pas ras-le-bol. J'ai eu un petit peu ras-le-bol à un moment donné dans une montée où j'ai dit, mais putain, cette montée, elle est raide et tout. Je me suis dit, il y a un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que Steven, il la monte vraiment en vélo? Et c'est pas la montée qu'il fallait porter avec des gros rochers. C'est une autre montée avant. Je me dis, mais Steven, il passe pas en vélo, là, cet endroit-là. C'est pas possible. C'est trop raide, etc. C'est, comment on passe là-dedans? Et donc là, vraiment, c'était un peu, là, je me dis, oh, là, vivement qu'on repasse sur un terrain qui soit plus sympathique. Et après, il y a la route, il y a la montée du col. La montée du col, le dernier col, je suis super content. Je la monte super bien. Je suis vraiment content de comment ça se passe. Et puis ensuite, il y a la descente. Et dans la descente, c'est vrai que j'ai froid, je me caille. J'ai froid aux mains, j'ai froid partout, j'arrive plus à freiner comme il faut, j'ai peur de me laisser embarquer par la vitesse et pas arriver à freiner, enfin il y a toutes ces notions là. Donc j'en avais un peu marre de la descente, donc j'étais content que ça se termine. Et d'un autre côté, je me suis dit bah voilà, j'ai mon aventure du jour, c'était ça. Et j'étais prévu là-dessus, je me suis bouclé là-dessus, j'ai réussi là-dessus et je suis très content là-dessus. Et ça m'a beaucoup plu comme ça et c'est très bien ainsi. JNC qui me demande comment as-tu géré les moments de down ou de difficulté. Alors, j'ai pas eu moment de down, hein, mis à part là, je dis là, dans une ou deux montées à la fin là où il fallait porter, pousser le vélo, c'était un peu pénible. Ce qui s'est passé en fait, je pense que déjà la pause de midi où je mange mon hamburger, elle fait du bien parce que déjà elle me permet de me reconnecter avec quelques personnes parce que j'avais perdu, j'ai roulé beaucoup tout seul. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ça m'a permis de faire une pause, et je l'ai dit dans le live, ça me permet de descendre du vélo, ça me permet de bouger un peu, de changer un peu de position, etc. Et je pense de moins être ankylosé, bloqué sur le vélo et autres, des trucs comme ça. Donc j'ai pas vraiment de moment de down ou vraiment de difficulté. Il y a un petit peu ce moment de ras-le-bol là, sur la fin dont je parle, il y a ce moment de froid et tout. Comment je les gère? Et ben en me disant ben qu'en fait c'est moi qui ai demandé à être là en fait. C'est moi qui ai demandé à être là, que je me suis préparé pour être là, que j'ai tout fait pour être là, que je sais aussi que j'ai des choses à raconter, que j'ai des choses à vivre, puis à raconter, que il y avait la communauté derrière moi, que j'avais des messages sur WhatsApp qui arrivaient sur mon téléphone en permanence, du groupe WhatsApp que j'avais créé justement pour m'encourager, que j'ai repensé à tous ceux qui m'avaient offert le vélo et permis que l'aventure se commence, tous ceux qui m'ont encouragé, tous ceux qui m'ont donné des conseils. Tout ça en fait, j'étais porté par ça en fait. Donc dans les moments de donne, de difficulté, je me reconnecte à ça. Je me reconnecte aussi à mon grand pourquoi, du pourquoi je le fais, pourquoi c'est important pour moi, pourquoi j'ai choisi de faire ça. Et le grand pourquoi en fait, de pourquoi je fais du sport, c'est parce que je me sens mieux. Me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma tête quand je bouge, quand je fais du sport. Je me sens en meilleure forme. Je sais que mon corps fonctionne mieux. Je sais que le fait de bouger plus m'a aidé vraiment l'an dernier, à la même époque, j'avais ma hernie, ma sciatique, j'avais des douleurs. J'ai eu quand même des années, il y a 2 ans, j'étais opéré du genou. Donc j'ai repensé à ces trucs-là. Et puis, je n'en parle pas, il y a 10 ans, où j'étais un gros hamster, quoi. J'étais obèse, où mes chemises ne fermaient plus. Enfin, j'étais fatigué, j'étais plus malade, etc. Donc tout ça, en fait, c'est repositionner ça. Et puis bien sûr, après, il y a les pensées. Moi, j'ai des bracelets au poignet. J'ai 2 bracelets en fait, un qui est marqué Hamster Zoning Club et l'autre qui est champion de mon monde. Et en fait, il y a un truc que je fais, et j'avais dit dans les trails, etc. C'est que quand vraiment, vraiment, ça va pas et tout, je fais un bisou dessus, je repense à ma fille et je dis tiens, j'aurai un truc à lui raconter aussi, un petit truc à lui raconter là-dessus. D'ailleurs, ça n'a pas raté parce que quand je lui ai raconté un peu le truc, elle m'a dit mais papa, t'as roulé autant, t'as fait une course aussi longue, mais t'es un sportif. Et puis après, elle me demandait mais quand est-ce que je lui dis tu sais, je vais faire notre course et tout. Et là, elle fera 2 jours. Elle dit oh, mais 2 jours, mais t'es un grand sportif, papa et tout. Et c'est aussi ça en fait, un petit peu ces trucs là auxquels moi en fait je me dis il faut qu'on aille chercher le bonheur, qu'on aille chercher le truc en nous en fait. Il est en nous la satisfaction, le bonheur. C'est pas par les autres, c'est pas parce que nous renvoient les autres, c'est pas parce que nous renvoient les réseaux sociaux, c'est parce que nous renvoient la famille, c'est pas nous renvoient les proches. Mais quand même, quand on a ces petits moments là, c'est quand même super sympa aussi. Et donc je m'y raccroche aussi, je me raccroche à ça, je me raccroche à ces pensées, je me raccroche à la fierté des gens qui me connaissent, qui m'ont vu évoluer, qui peuvent se dire que j'ai fait des choses cool, sympas. Et vous en faites partie, vous qui écoutez le podcast, mais il y a la famille, il y a ma fille, il y a plein de gens aussi comme ça. Potentiellement qui pourrait qui pourrait le faire, qui m'a pu même être étonné hein, sur 24 heures. Je l'avais dit, j'ai eu par exemple ma mère qui m'avait dit oh, mais c'est impressionnant et tout des choses comme ça en fait, voilà, des sortes de messages là en fait. Même là sur le Gravelman, j'ai eu le truc ah ouais mais c'est impressionnant, t'as roulé autant de temps, etc. et tout. Enfin voilà, fait partie un petit peu de se reconnecter à ça, de se dire ça peut arriver, mais il faut pas sur l'instant, faut pas se connecter à ça, faut pas dire je le fais pour avoir la gloire, je le fais pas pour la victoire. La seule victoire c'est contre nous-mêmes, c'est de se dire bah tiens, j'avais cette idée-là, j'ai mis en place un plan pour y arriver. Mon plan s'est déroulé avec ou sans accro, ça c'est voilà, moi avec quelques accros, avec des trucs que j'ai pas prévu et des trucs qui sont mieux passés que prévu et tout. Je suis là, j'ai choisi d'être là, j'ai choisi d'en profiter, je me connecte au moment présent, d'en profiter le plus possible, et je me connecte au grand pourquoi de pourquoi j'ai choisi d'être là. Et puis voilà, c'est vraiment le grand conseil que je donne. Mylène qui me demande, étais-tu tout seul pendant le parcours, comment gères-tu ça mentalement? Alors, oui, j'étais tout seul une bonne partie du parcours. Alors, sauf au tout départ, là, où il y a l'espèce de peloton. Sauf à un moment donné où on avait un truc, on roulait, alors j'ai roulé avec un gars, puis j'ai roulé, il y avait un couple aussi qui roulait, mais alors qu'on n'avait pas roulé à la même vitesse, parce que en fait sur plat et sur montée j'étais plus rapide qu'eux, et sur descente en fait ils roulaient plus vite que moi, et à un moment donné en fait ils n'ont pas fait les pauses déjeuner au même moment, il y avait un petit groupe qui s'arrêtait plus, il y avait un petit groupe qui roulait pas, enfin voilà, donc j'ai pas réussi en fait à trouver vraiment, à un moment donné j'ai roulé avec un gars pendant un moment, mais en fait sur chaque montée, je regardais, en fait, je montais plus vite que lui. Et puis, à un moment, il s'arrêtait, son truc sur mon vélo, je crois, etc. Il arrive pas loin d'une heure après moi, quand même, au final, hein, dans cette histoire-là. Donc, l'un dans l'autre, ça veut dire que... Parce qu'au bout d'un moment, je me suis mis, il est où, en fait? Est-ce que moi, je me suis trompé de chemin? Il était juste derrière moi. Je me retourne, il est pas là, puis une autre fois, etc. Donc, j'ai pas eu ce truc-là. Mais après, moi, par contre, il y a un autre truc aussi qui est vrai. C'est que j'ai l'habitude d'être un solitaire, en fait. C'est-à-dire que je fais mes défis solitaires, je fais beaucoup de trucs en solitaire. Mon 24 heures, je l'avais fait en... Alors, je dis pas en solitaire, parce qu'il y avait Mehdi, parce qu'il y avait Happy Run, parce qu'il y avait l'entourage, etc. autour. Mais j'étais parti tout seul, hein, sans famille, là-bas. Sur le 24 heures, le marathon, j'avais couru tout seul. J'avais juste ma famille à l'arrivée. Mais mon 496 challenge, j'ai fait toutes mes sorties tout seul. Ça fait plusieurs années que je cours plus en club. Même si parfois je me dis ça manque et tout sur certaines séances, que j'apprécie sur certaines séances d'avoir un peu de compagnie, mais c'est pas ce que je vais rechercher en fait. Beaucoup, donc j'ai beaucoup de solitude, je suis un introverti, donc j'ai aussi beaucoup de moments tout seul, j'ai l'habitude de courir tout seul, j'ai l'habitude de passer beaucoup de temps seul aussi, et donc pour moi en fait le fait de le gérer seul n'est pas problématique. C'est vrai que il y a un moment dans un passage super compliqué, il y a eu deux passages compliqués là, il y a un passage donc dans la forêt là avec les petits lacs et tout là, c'était chiant, j'étais content d'avoir d'autres gens parce que ça rassure un peu de se dire si moi je suis dessus, ça me semble compliqué de passer par là, mais on est d'autres avec la trace, et tout le monde, quand on regarde la trace, on dit que c'est bien par là. Donc ça rassure, quand même, ça c'est un point de rassurance. Et puis il y avait un autre endroit aussi, la fameuse montée, il fallait porter là, où c'était vraiment très raide. Et en fait, au début, je me suis dit, mais il faut jamais passer par là, c'est pas possible. Et puis quand je me retourne, je vois un gars, justement, du petit groupe qu'il y avait dans la forêt avant, qui était là, et qui dit, si, mais c'est par là, en fait. Et je dis, ah. Et on arrive en haut, on se dit, bon, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, etc. On a roulé un petit peu un bout ensemble. Mais c'est rassurant en fait de se dire, ben on est deux sur cette trace là quand même. Et si lui il me dit que son GPS est bon, moi mon GPS, j'ai eu un doute, mais ça me semblait bon. Et ben voilà quoi. C'est ce côté rassurance en fait. Mais après le fait de rouler tout seul, ça m'a pas posé problème plus que ça. Je peux passer par exemple sur mon fameux défi du 666 là. J'ai roulé 3 heures, j'ai couru 36 minutes, j'ai nagé 30 minutes, j'ai marché, etc. Je passe ma journée tout seul en fait, quasiment tout seul. C'est là où écouter les podcasts, etc. Enfin voilà. Donc en soi, c'est mon quotidien en fait. C'est mon quotidien, c'est une habitude. Maryse qui me demande, entre le gravelman et le marathon, qu'as-tu préféré? Pouah, alors ça, c'est vraiment trop. Tellement différent. Le marathon de Paris, il y avait l'émotion du parcours, de la validation de ce projet long terme, de la validation de ma perte de poids. C'est vraiment en fait le marathon de Paris, ça validait tous les parcours que j'avais fait de passer du gros hamster de 107 kilos à ce jour-là je fais 78 ou 79 kilos au départ, et ça validait le fait que j'ai commencé à courir, que j'ai commencé à faire plein de sport, à manger mieux, à perdre du poids, et courir 5 kilomètres puis 10 puis un semi-marathon, des trails, etc., et que j'arrivais à une forme d'aboutissement pour moi, en fait une forme d'aboutissement. Et puis il y avait l'ambiance, les 50 000 personnes ou 55 000, la foule et tout, l'ambiance, la ligne d'arrivée, enfin toute l'ambiance, etc., tout ce truc-là, et l'impression de cette espèce de grande masse là qui se déplace, qui est vraiment impressionnante. sur le Gravelman, en fait, on n'est pas sur cette ambiance-là, parce qu'on est sur une ambiance plus aventure. On est que, je dis, une centaine de personnes au départ. On est plus rapidement tout seul. Il y a pas le, il y a la médaille à l'arrivée qui est remise et c'était cool de croiser Steven Le Yarrick, que j'avais eu dans deux épisodes de podcast. Mais c'est pas le même type de, c'est difficile à comparer. Et puis c'est aussi difficile à comparer parce que finalement, le marathon était une forme d'aboutissement. D'ailleurs, j'ai fait un blues du marathon après, en disant je ne sais plus ce que je vais courir après puisque finalement j'ai atteint mon objectif, alors que là ce Gravelman Auvergne en fait est un pas vers le Gravelman Paris-Deauville, vers le 350. Donc finalement ce 120 là était une étape vers la suite, donc c'est pas un aboutissement en fait, c'est là où ils sont, je peux pas les comparer en fait, c'est-à-dire que ce sont des étapes vers autre chose. Est-ce que le Paris-Deauville, comment je vais le considérer et tout? Il se peut que le Paris-Deauville, quand je le fasse, je considère aussi que c'est la fin de l'aventure, par exemple, préparation Gravelman de A à Z, etc., que ce soit la fin du podcast, parce que finalement, le podcast sera terminé, un peu comme j'avais imaginé pour Kilomètre 42. Mais je dis pas que Kilomètre 350 s'arrêtera après Gravelman, j'en sais rien. Mais potentiellement, c'est ce qui aurait pu se passer pour Kilomètre 42 aussi. Donc la suite, en fait, je la connais pas. Mais pour moi, ce Gravelman, c'était plutôt une étape. En fait, je savais que derrière, j'allais enchaîner, que j'allais faire une semaine ou deux de récup, que j'allais ensuite enchaîner derrière sur notre objectif intermédiaire, et puis qu'ensuite, j'allais rouler, que j'allais pouvoir préparer ça, que j'allais partir sur le Gravelman Paris-Deauville, etc. Donc c'est pas comparable, en fait. Je peux pas vraiment les comparer. Je peux pas dire qu'il y en a un que je préférais l'autre et tout. Je pense que j'ai beaucoup plus d'émotions sur le marathon parce que je l'attendais beaucoup plus, parce que c'était chargé en plein de choses, etc. Là, je pense que c'était l'émotion vraiment, je la ressens là avant la dernière descente au col de la Croix Saint-Robert. Mais c'est pas comparable en fait. C'est-à-dire que c'est une étape, ça reste une étape, et c'est aussi une marche de plus dans mon parcours. Donc j'en suis très fier de cette marche. Mais finalement c'est la suite de mon parcours, et c'est un parcours qui est beaucoup plus sportif qu'à l'époque. Ou à l'époque, quand je fais le marathon, en fait, il y a quand même une question qui est de dire, est-ce que je vais pas retomber du mauvais côté après, quoi? Qu'est-ce qui va se passer après? Et mon blues du marathonien, c'est ça, c'est en fait, je n'ai plus envie de courir après. Qu'est-ce qui va se passer? Tout s'arrête, c'est fini. Qu'est-ce que je reprends comme habitude, etc. Alors que là, je savais que derrière, j'allais garder mes habitudes sportives et mes habitudes alimentaires. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est difficile à les comparer vraiment. Et Jean-Yves qui me demande, tu avais énormément d'attentes, convaincu et ravi, y a-t-il quelques déceptions sur certains points? Franchement, honnêtement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de déception. Je suis convaincu, je suis ravi. Je dis que c'est un chouette truc parce qu'il y a une belle trace, parce que on voit que Steven, il a une logique à lui qui est très particulière, qui peut-être plaira pas à tout le monde, hein, je veux dire, qui est de dire, je vous fais prendre des traces qui sont engagées, qui sont compliquées, c'est de l'aventure. Pour vivre de l'aventure, faut sortir de la trace classique, faut sortir des pistes cyclables, faut sortir de la route, faut prendre des chemins, faut prendre des choses qui sont compliquées, sur lesquelles on n'y va pas facilement. Mais je vous fais une trace et je vous garantis que vous allez pouvoir y passer d'une manière ou d'une autre, et que vous avez le temps de la faire, et que je vous laisse le temps de la faire, et que je mets en place les choses pour que vous puissiez le faire. Et je crois qu'en fait c'est exactement conforme, c'est-à-dire que c'est le déroulement, mis à part que c'est plus technique que ce que je pensais sur le Gravelman Auvergne en tout cas, et techniquement, exactement conforme en fait à la notion que j'avais de ce que partage Steven Le Yarrick. Vraiment. Donc, pour moi, en fait, il n'y a pas de déception. Je suis ravi, je suis content de l'avoir vécu, je suis content de m'être lancé là-dedans. Il n'y a aucun moment, je me suis dit, ouais, viens, quelle merde et tout. Non, ça, il n'y a aucun moment, c'est le cas. C'est, pour moi, c'était vraiment une joie, en fait, de le faire, et j'étais content de comment ça s'est passé, et j'étais vraiment content aussi de l'avoir fait ainsi. Alors ensuite, j'ai eu deux questions sur la partie, on va dire, je les ai classées en physique et récupération. Alors je pense qu'il y a une question d'Adeline qui était plutôt une petite boutade, parce que le lendemain, j'ai couru 7 ou 8 kilomètres, et en disant que c'était un décrassage, elle me dit l'intérêt du décrassage le lendemain d'une course, est-ce que c'est physique ou psychologique? Bon, moi, il y avait déjà un truc, c'est que je voulais pas interrompre ma série de courses quotidiennes. Ça, c'était vraiment un point qui était important pour moi. Et puis, en fait, ça va revenir en fait sur la question suivante qui est d'Eric, qui me demande une comparaison vélo, running, sur les aspects alimentation durant l'effort, récup, difficulté de l'effort sur le moment. Et notamment sur la récup. J'étais très, très, très surpris de la capacité, de la facilité à récupérer. Parce que, par exemple, après le marathon, j'avais mal aux jambes. Et j'avais une grosse fatigue. le soir du marathon où j'ai pris un bain, j'ai fait une bonne sieste, etc. Là, bon, j'ai pas eu le temps de faire la sieste, hein, parce que je suis arrivé à 21h30, j'attendais les vélos et tout, puis j'ai mal dormi, donc j'étais pas au lit avant minuit et demi. La récupération, finalement, comme après 24 heures, à la fin, j'ai mal aux jambes. Le lendemain, je trottinais, en fait, hein, sur un parking. Je pouvais trottiner pour pas arrêter la chaîne, je pouvais marcher un peu vite, je pouvais un petit peu trottiner, mais c'était, j'ai quand même mal aux jambes, mais j'arrivais à descendre les escaliers. C'est pas les images où on voit les gens qui arrivent pas à descendre les escaliers, qui sont bloqués ou quoi que ce soit. Mais par contre, là, sur le Gravelman, je n'ai aucune douleur le lendemain, quoi. C'est-à-dire que je n'ai aucune douleur. J'ai couru 8 km, mais alors frais comme un gardon, avec une capacité même à accélérer, etc. Alors, sur le 350, je n'en sais rien comment ça va se passer, mais en tout cas, sur la partie récup, le fait qu'il n'y ait pas de choc, je trouve que la récupération est beaucoup plus facile, tout simplement parce qu'il n'y a pas les chocs, il y a moins de casse physique, je trouve. Alors après, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, parce que j'avais donc quelques douleurs, un petit peu dos, fesses, cervicales, etc. Et là, je sais, on m'avait prévenu, je sais aussi qu'il y a du renforcement à faire. Douleurs aussi un peu dans les bras, dans les choses comme ça, mais c'est vraiment très faible par rapport aux douleurs qu'on peut avoir les jambes, les douleurs que j'ai pu avoir aux jambes après certains trails, même des trails courts, mais dans lesquels il y a eu des descentes qui étaient engagées, etc. Je me rappelle d'un trail de 13 bornes et un autre trail de 25. Quand je les termine, j'ai très mal aux jambes, où j'ai au-dessus des cuisses, j'ai comme des boules et tout, tellement ça avait travaillé dans les descentes. Là, franchement, le fait que ça soit porté et tout, il y a beaucoup, beaucoup moins de choc. C'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, en fait, etc. à gérer. Et donc, au niveau de la récup, c'était beaucoup plus facile, vraiment beaucoup plus facile. Après, une grande différence, moi, je trouve, sur l'alimentation, c'est que l'alimentation en course est compliquée parce que il y a les secousses. On sait qu'il y a beaucoup de secousses durant l'effort. Donc les intestins, etc., ça, c'est pas facile. L'estomac, c'est pas facile. Il est plus facile de manger en vélo, en fait. J'avais fait un épisode hein, sur le kilomètre 50 sur cette différence entre les deux que j'avais constaté. Je trouve qu'il est plus facile en fait de s'alimenter sur le vélo. Le burger est passé, alors que je sais que le burger en courant serait pas passé. J'aurais même pas pris le risque en fait de manger un burger en courant derrière. Donc j'aurais même pas pris le risque, alors qu'en vélo il y a ça. Le vélo aussi démultiplie l'effort en fait. Hein. Enfin les forces hein, finalement, le fait d'appuyer sur un coup de pédale, on va faire plus de mètres. Donc on peut gérer en fait un peu la puissance qu'on va mettre dans les pédales, etc. avec les vitesses. En course à pied, c'est pas le cas. En course à pied, si on veut aller plus vite, il faut accélérer, il faut pousser un peu plus fort, mais on n'a pas la démultiplication de l'effort qui est due à la mécanique. Sur la difficulté de l'effort, un petit peu différent. Je pense que la difficulté de l'effort, en fait, en course, mais après, ça dépend des courses qu'on fait, parce qu'en course à pied, bien sûr, on peut faire des courses longues. Là, je voyais, il y avait la VVX, il y avait d'autres courses en Alsace et tout, le week-end dernier. Il y en a qui ont couru 17h, 18h, 20h, etc. Moi, mon effort, hein, moi aussi, il fait 13h30. Donc, la durée d'effort peut être identique. Le temps d'effort peut être identique, etc. Je pense, en revanche, que l'alimentation est plus simple. D'ailleurs, on le voit, hein, si vous suivez un peu les gens qui font du vélo, les arrêts boulangerie sont nombreux. Alors, par contre, on dépense énormément de calories. Je me suis rendu compte en vélo. Ça, c'est vraiment important. Et puis, il y a un truc qui est pour moi vraiment important aussi. C'est la gestion de l'hydratation. Autant en course à pied, rapidement on a chaud, on transpire et tout. Autant en vélo, on a rapidement froid. Donc ça, c'est un premier truc. Et le corollaire de ça, c'est que moi en vélo, par exemple, j'ai beaucoup moins soif. Alors qu'en course, j'ai plus soif. Donc là, je me suis forcé à boire en fait pendant la course. Et je l'ai dit hein, dans l'épisode live hein, que en fait, dans les deux premières heures, je me rends compte que j'ai quasiment rien bu. Donc à partir de la deuxième heure, je me dis non, il faut que tu boives, et bois ton truc, bois ton boisson d'effort, bois ça et tout. Que ma stratégie de prise de glucides et compagnie, je suis pas très, j'étais pas très, ou même de barrer des protéines, etc. Et j'étais pas très calé dessus en fait, simplement parce que j'en ai pas ressenti le besoin, alors que en course, moi je trouve qu'on ressent plus rapidement le besoin en fait. En tout cas c'est mon sentiment, c'est-à-dire que sur une sortie de 2 heures en course à pied, déjà je pars pas sans eau. Alors que là, j'ai pas bu quasiment, donc j'aurais bu plus, j'aurais mangé un peu plus naturellement. Là, j'en ai pas eu besoin. Alors même si maintenant, avec l'expérience, hein, je me rends compte que sur des courses, en course à pied, je peux manger, retarder le moment où je vais manger très tardivement, etc. J'ai déjà fait un semi-marathon sans aucun repas, enfin presque à jeun en fait, et sans autre chose qu'une barre dans la poche et que j'ouvre à peine. Donc ça peut, je peux le faire aussi, hein, je veux dire que ça peut arriver. Mais je trouve que quand même en course, on a plus chaud, on a plus soif, on a plus faim rapidement, moi je trouve, on peut manger moins facilement, on mange des plus petites doses, des plus petites portions. Là c'est vrai qu'après, j'ai fait finalement un gros repas à midi entre les frites, le burger et tout. Plus j'ai mangé donc la boisson d'Apirone, plus donc mon bidon d'électrolyte. Donc j'avais quand même en boisson et tout, j'avais quand même fini par prendre de quoi tourner en fait. Hein. J'ai mangé des bonbons l'après-midi et tout. Je me rends compte ma dépense calorique elle est supérieure à 6000 calories hein, sur la journée. Donc elle est importante. Et donc il faut charger le bonhomme en fait, j'ai envie de dire. J'ai regardé l'autre jour un documentaire sur Amazon Prime, vous avez un documentaire sur une chef cuisinière sur le Tour de France avec une équipe australienne qui explique hein, qui montre bien que les coureurs cyclistes sur le Tour de France, ils grillent 6000 calories dans leur journée tous les jours. Et elle dit ils mangent 4 fois plus que ce que moi je consomme en fait en calories. Donc c'est bien un rapport temps d'effort de tout ça qui a à gérer. Est-ce qu'ils sont exactement les mêmes en course à pied, en vélo? Moi, j'ai pas les comparatifs. Mon ressenti, en fait, c'est que j'ai le sentiment quand même que le vélo. Je sais pas pourquoi. J'ai du mal à expliquer parce que pour moi, l'effort, il me semblait plus faible en fait en vélo sur certains aspects. Et pour autant, je me rends compte que j'ai peut-être plus faim quand je fais du vélo que quand je cours. Alors, est-ce que c'est la durée d'effort qui fait ça? Le temps d'effort, la durée d'effort globale, etc. Je ne sais pas. Je peux pas dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut manger beaucoup plus facilement. Il y a un autre truc aussi, c'est que sur le vélo, on porte pas directement. C'est-à-dire que si c'est sur les sacoches, c'est dans le vélo, c'est sur les sacoches, l'eau et tout. Alors qu'en course à pied, si on veut prendre de l'eau, il faut le mettre dans le dos. Donc, on a le poids du sac, on a les trucs à prendre, etc. Donc je pense que les douleurs aussi, on peut avoir des douleurs de dos, des frottements qui sont plus importants je trouve. Parce qu'on parle beaucoup des fesses hein, sur le vélo, mais si on regarde un petit peu l'histoire de la course à pied, les échauffements, des sacs à dos, j'ai vu des trucs sur le marathon des sables avec les échauffements des sacs à dos, on en avait parlé notamment avec l'épisode aussi. Vous savez, on parlait des pieds sur la podologie, on parlait justement des sacs à dos, qu'il y a des échauffements avec les bretelles, etc. et tout. En course à pied, on a ces trucs-là. Mais on sait aussi que une grande partie des abandons en course à pied viennent du problème de l'alimentation, viennent des problèmes de digestion, des trucs qui passent pas, des ischémies, alors on a parlé, des diarrhées, tous ces trucs-là. Qu'en vélo, j'ai quand même le sentiment qu'on est un peu plus protégé de ça, en fait. On est un peu plus protégé de ça. Et le corollaire de ça, pour moi, c'est que si on est un peu plus protégé, qu'on peut se nourrir un peu plus en vélo, manger plus facilement, manger peut-être plus de trucs j'ai envie de dire, moi, j'ai mangé plus gras, mangé plus de protéines, etc. C'est peut-être aussi ce qui explique que la récupération derrière, en fait, on puise moins dans certaines réserves, je pense. En tout cas, à mon niveau, hein, j'ai l'impression d'avoir moins puisé dans mes réserves. Et qu'en puisant moins dans les réserves, finalement, là, ça facilite la récup derrière. Et là, je vous renvoie sur l'épisode du conseil que j'ai fait la semaine dernière sur la récupération, où j'expliquais ça en fait en disant que le meilleur moyen pour bien récupérer, c'est déjà de bien gérer ses niveaux d'alimentation pendant l'effort, niveau d'hydratation, niveau physique aussi, mais niveau d'alimentation, d'hydratation, et que l'un dans l'autre, en fait, si on arrive totalement épuisé à la fin d'un défi sportif, d'une course ou n'importe quel que soit le sport, on mettra plus de temps à récupérer. Si on arrive à plus manger sur le vélo que en courant, peut-être qu'en fait, ça en facilite aussi la récupération. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. C'est comme ça que je le vois. Alors, est-ce que j'ai raison ou pas? Ça, c'est autre chose. En tout cas, j'ai pas assez de recul pour le dire. Mais en tout cas, moi, c'est ma vision des choses telle que je le vois. Et enfin, on va finir maintenant sur le futur, parce que j'ai des questions sur le futur, et notamment sur mon futur par rapport au vélo et mon futur aussi sur le Paris Deauville. Là, je rappelle, hein, le but du jeu, c'est de la trace 350 en gravel. J'ai eu des questions, par exemple, Aurora qui me demande comment te sens-tu, comment tu sens le 350, plus cadeau surprise et faiseur de trace, maintenant. Alors, maintenant, là, je sais déjà, en fait, à quoi m'attendre. Alors, bien sûr, je peux pas dire quelle sera la trace, quelle sera la difficulté, à quel point s'engager, est-ce que c'est plus facile de rouler en Auvergne ou de rouler entre Paris et Deauville. Ma vision que j'ai de chez moi, c'est me dire que Paris-Deauville, ça semble plus plat que l'Auvergne, mais je me dis, ça doit pas... Steven, il doit bien avoir des traces entre les montées et les descentes, entre les parcours, il doit y avoir des trucs vallonnés, il doit y avoir des différents trucs à passer. Je me dis, non, c'est, faut pas partir sur le principe que ce soit plus facile. Déjà, c'est ça. Donc maintenant, je sais en fait quel est le niveau d'exigence technique qu'il faut mettre, le niveau d'entraînement, déjà un premier niveau d'entraînement pour en tout cas la trace 120. J'ai vu aussi un peu les discussions que j'ai vues, hein, c'est-à-dire que ça m'a fait de l'expérience, j'ai écouté, j'ai entendu ce qui s'est dit, etc. Par exemple, Steven, il avait dit un truc, il a dit, bah, ceux qui font 350, si vous arrivez à faire 200 km sur le premier jour, vous passez la nuit, vous dormez la nuit à tel endroit, puis le lendemain vous faites 150, ça, vous arrivez tranquillement avant le soir, quoi. Vous le faites en deux jours. C'est rassurant ce truc-là en fait, c'est vachement rassurant de se dire, bah tiens, oui, c'est effectivement ce truc-là, est possible. Ce truc-là est possible. Se dire, bah tiens, dès le départ, je peux partir du principe que je peux dormir à tel endroit, que j'ai cette solution de secours, que je peux l'anticiper, que je peux la prévoir, que je pars pas forcément pour 350 d'un bout. Mais d'un autre côté, en fait, je peux me dire aussi, mon enjeu, c'est de faire 350 d'un seul bout. Est-ce que c'est possible ou pas? Je n'en sais rien. Parce que je n'ai pas l'expérience du 350. J'ai l'expérience du 120. Et d'ailleurs, après, ça remonte après sur une question de Kevin. C'est, tu rassuré pour le défi des 350 de Gravel qui sera vite là? Ben, est-ce que je suis rassuré? Oui, je suis rassuré sur un point. C'est que, bon, déjà, c'est que je sais que je peux tenir déjà une journée. Et je sais aussi que sur l'entraînement, j'ai pu tenir, enchaîner un samedi, un dimanche, faire deux journées comme ça, enchaîner... même enchaîner des efforts, etc. Je sais que techniquement, bah voilà, le vélo, s'il faut réparer un truc, j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour réparer, que j'ai le matériel, que j'ai le matériel obligatoire, que je sais à peu près déjà sur quoi travailler, hein, sur comment entraîner, sur quoi progresser, sur quels sont les éléments sur lesquels je dois m'entraîner et progresser. Donc ça, oui, ça rassure, en fait. Grosso modo, ça rassure. Bien sûr, après, on ne sait pas quelle sera la trace exacte, on ne sait pas si c'est une trace de 350... hors taxe ou TTC, comme on pourrait dire, hein, c'est-à-dire avec les cadeaux surprises ou pas, est-ce qu'elle sera très technique, quelle sera la météo, ça on sait pas. On peut pas savoir ça, c'est le truc. Début septembre, il peut faire très beau comme il peut faire un week-end de pluie, avec des gros orages, donc ça on sait pas. Mais en tout cas, ce qui est rassurant, c'est de se dire, j'ai vu ce qui était le 120, j'ai vu le niveau d'exigence du 120, j'ai vu ce que j'étais capable de faire, j'ai vu sur quoi je dois progresser, j'ai vu les trucs qui marchaient, j'ai vu les trucs qui marchaient pas. Donc je peux ajuster en fonction mon entraînement et je sais sur quoi je vais devoir ajuster un petit peu mon entraînement pour progresser, pour avancer petit à petit là-dessus. Pierre qui me demandait, sinon à Deauville, tu vises le format route ou gravel? Ah oui, alors je l'ai dit, c'est vrai que j'ai laissé la question. Oui, je vise bien le format gravel. Mon ambition, c'est bien le format gravel. Je l'ai dit, hein, c'est que je suis pas un grand fan de la route. Là même hier je roulais un peu, il y a un moment donné je me suis retrouvé sur une route, j'ai vite trouvé un chemin pour partir plutôt sur le chemin plutôt que sur rester sur la route. Les petites routes là comme on a eu des fois sur la trace gravel, on a les petites routes, on n'a pas vu de voiture, on n'a rien vu et tout, c'était cool. Mais à un moment donné on s'est retrouvé sur une ou deux routes où il y avait plus de circulation et moi je trouve que c'est pénible. Donc vraiment la trace gravel. Roro qui me dit, vas-tu t'arrêter de dormir pour le 350? Bah là c'est la question qui se pose, hein, c'est de dire je ne sais pas. Ça va dépendre du déroulement, en fait. Je me laisse l'opportunité de le faire en une fois, mais je me laisse l'opportunité de le faire en deux fois. J'aimerais bien aussi tester quelque chose, c'est de rouler la nuit complètement. Je me dis, les journées de septembre sont encore assez longues, moins longues qu'au mois de mai, moins longues qu'au mois de juin, mais on peut encore rouler une bonne partie début septembre. Il y a encore la nuit est encore relativement courte, ou la journée est relativement longue. Donc je me dis, pourquoi pas, en fait, pousser le plus long possible, le plus loin possible, et retarder le moment de dormir. J'imagine bien ça. C'était un truc auquel je voulais me confronter auquel je me suis confronté sur 24 heures, d'ailleurs. Sur 24 heures, je voulais pas dormir. J'ai somnolé quelques minutes sur un tapis parce que j'avais froid. D'ailleurs, c'est cette notion de froid, vous voyez, qui revient, en fait, hein, dans mes trucs. J'ai eu froid sur le 24 heures, j'ai eu froid sur le Gravelman. J'ai du mal à me réchauffer, donc ça c'est un truc qu'il faut qui me questionne un peu, sur lequel il faut que j'anticipe un peu les choses. Est-ce que c'est une question alimentaire? Est-ce que c'est une question de composition corporelle, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est une question d'habillement? Je sais pas. Une question de gestion de l'effort, une question de la fatigue, je ne sais pas trop, mais ça il faut que je réfléchisse. Ce qui est sûr, c'est que sur 350 je me laisse, en fait, l'opportunité de le découvrir, et de me dire, si je dois dormir, je peux dormir. Mais si je peux ne pas dormir, je ne dormirai pas. En fait, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. C'est de me laisser l'opportunité et me dire, bah, s'il y a un endroit où je peux m'arrêter, je m'arrêterai. Si j'ai vraiment besoin de m'arrêter, je m'arrêterai. Si je sens que j'ai besoin de m'arrêter, je m'arrêterai. Mais si j'ai envie de continuer et que je me sens de continuer, je continue. C'est pour l'instant, c'est mon point de vue comme ça. Et pour arriver à faire ça, en fait, ce que je vais faire, c'est m'entraîner à rouler de nuit, en fait. Voilà, de partir le tard, partir le soir, rouler un peu de nuit, ou rouler tôt le matin aussi, enfin ces trucs-là, c'est-à-dire rouler un bout la nuit, puis finir sur le matin, d'avoir ce type d'entraînement-là et tout. Ça, c'est un truc sur lequel je vais m'entraîner pour progresser et pour pouvoir arriver justement à gérer cet aspect de rouler de nuit. Donc m'entraîner à rouler la nuit. Kevin qui dit, qu'estimes-tu de devoir changer encore pour améliorer l'expérience? Bon, je l'avais dit, hein, c'est il y a un petit peu un côté donc de rouler plus pour prendre de l'expérience. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut que j'allonge les séances, que je multiplie les séances qui vont dépasser les 100 km, ça c'est certain. Augmenter le volume de vélo sur une partie de l'été. Parce que bon, j'étais parti du principe en disant, si j'arrive à rouler 140 km, si je dois faire 140 km dans le week-end, dans la journée, si j'arrive à rouler 140 km dans la semaine, je vais le faire. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs avec des invités du podcast, c'est ce que j'ai appliqué en course à pied. C'est pour moi, je le vois comme ça, je dis ça passe. Mais ça veut dire que il faut que je monte à 350 km de vélo. 350 km de vélo, je les ai pas en fait, sauf la semaine du Gravelman où je l'ai eu, j'ai eu 288, donc j'étais pas à 350. Sur 7 jours, je crois, il y a une histoire de glissade où je sais pas comment j'ai fait. En fait, j'ai fait mes calculs un petit peu pour voir le truc. Je me dis que c'est surtout cet aspect-là. Non, 205, pas 288, 205. Avec des semaines, ouais, 158 et tout. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que j'arrive à passer un grand fond d'eau régulièrement le week-end, etc. Donc une sortie de 100 km. Que j'arrive à multiplier les sorties plus longues, d'une part parce que pour habituer le corps, pour m'habituer moi, pour m'habituer au temps de roulage, pour m'habituer aussi au temps de d'être assis sur la selle, hein, pour les fameuses fesses, pour habituer l'ensemble, pour peaufiner mes stratégies d'alimentation, pour peaufiner tout un tas de trucs. Donc c'est ça, il faut que je le multiplie. C'est aussi les conseils que m'ont donné les uns les autres aussi de multiplier ces longues sorties. Il y a un truc que je vais faire aussi, donc c'est une sortie, j'avais dit, pour aller voir Armano, donc faire plutôt une sortie bikepacking, enfin une 2-3 jours bikepacking, donc avec des sorties déjà qui seront au-dessus de 100 et puis les enchaîner déjà, ce qui me fait que si je le fais, ben déjà j'aurai une semaine à 350 km, hein, qui va se faire en 3-4 jours, donc déjà ça sera un bon premier point pour apprendre. Je pense qu'il y a un truc sur m'habituer à rouler sur la partie technique, travailler les descentes, être plus à l'aise en descente, travailler ce côté monter, descendre, c'est-à-dire faire des séances de côte et faire des séances de descente. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut que je travaille, des séances de côte et des séances de descente, des séances de côte et des séances de descente, pour m'entraîner à monter, pour être plus à l'aise sur les montées, parce que j'ai fait quand même pas mal de dénivelé, mais pas assez. Et m'entraîner aussi sur les descentes, parce que j'avais fait un peu de descente, mais pas assez de descente. Et c'est vraiment sur les descentes qu'il faut vraiment que je travaille là, le point le plus important. Donc là, c'est vraiment un point qui est pour moi à travailler. Voilà, qui est vraiment un point à travailler et qui est pour moi essentiel, en fait. Qui est vraiment pour moi essentiel. Et c'est là où améliorer l'expérience va se faire, en fait. C'est d'être plus à l'aise encore sur le vélo, prendre plus d'expérience sur le vélo, d'être plus à l'aise, mais notamment être plus à l'aise dans ces histoires de descente et d'être et puis je vais pas rouler dans des pelotons, hein, par contre ça m'intéresse pas, mais par contre être plus à l'aise en montée en descente, ça c'est un truc qui est vraiment important pour moi. Et puis enfin j'ai une dernière question de Abby Appier qui me demande, aurais-tu envie de faire la trace route pour rouler différemment? Et c'est ce que je disais en fait, hein, sur la question de Pierre, en fait la manière de rouler en gravel pour moi c'est la manière dont j'ai envie de rouler, en fait, et qui correspond aussi à ma pratique que j'avais en course à pied, c'est-à-dire de, je pars par une route, je vois un chemin, je me dis tiens, je prends le chemin, puis après je vais mixer et tout, j'évite la route, tout. J'ai pas envie, en fait, de faire trop de route, j'ai pas envie de, il y a des trucs qui pourraient me tenter, en fait, quand je vois ce qui se passe dans les ambiances au Dax, etc., ce qui se passe sur certaines courses, certaines aventures en vélo, on devient gourmand, j'ai envie de dire, aussi sur des trucs. Il y a des invités qui ont parlé des Biking Man, d'autres qui ont parlé des Poco Loco, il y en a qui ont parlé des différents week-ends, etc. Il y a plein de trucs qui sont possibles. C'est sûr qu'après, un jour, je me dis, peut-être, donc on a parlé des Audax aussi, je me dis, ça peut être le cas aussi en changeant les vélos. Mais par exemple, pour l'instant, je me vois pas faire une étape du Tour. Alors, en plus, parce qu'il y a des histoires avec tous les cols et toutes les descentes. Mais je me vois pas faire ça. Mais un jour, je me dis, ouais, faire le Ventoux, tous les cyclistes, ils parlent du Ventoux. Bon, le Ventoux par la route, faire évoluer le vélo. Il y a aussi une histoire qui est sur ce que j'oubliais pas, c'est je me dire bah tiens, un jour est-ce que je ferai un Ironman? Et si je fais un Ironman, l'Ironman, il faut rouler sur la route, donc comment il y aura une évolution du vélo, changer les roues, déjà, ça peut être un premier point, rouler plus sur route, travailler la vitesse, travailler l'endurance sur des formats plus longs, etc. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc je dis pas en fait que je n'irai pas un jour sur de la route, mais pour moi en fait, je vois vraiment le gravel en fait comme le nouveau trail en fait, en disant il y a un moment donné où c'est cool de courir sur route, mais avec les voitures, l'environnement et tout, au bout d'un moment on s'ennuie un petit peu. C'est cool aussi de faire de la piste, mais au bout d'un moment on a envie de sortir un petit peu. Et le trail offre un espace en fait de découverte, d'aventure, et vraiment d'aventure. Et moi c'est ça que j'ai envie. Et en fait, si je le ressens en course à pied, je le ressens aussi en vélo en fait. Je le ressens aussi en vélo. Et hier, je vois ma sortie vélo de 66 km. Le plaisir de passer dans un chemin, de me retrouver face à un champ de coquelicots magnifique, etc. Presque avant le coucher du soleil. Le plaisir de voir les chemins, le plaisir de rouler sur des petits chemins de terre. Le plaisir de passer sur des petits singles, j'ai envie de dire un petit peu, hein, pour reprendre l'expression trail, avec des petits terrains, etc. Et puis de dire, tiens, par moment, je reprends la route, je retrouve des petites routes, sur les petites routes, je peux avancer un peu plus vite, c'est aussi grisant d'avoir la vitesse. Mais ce mix-là, pour moi, me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que, pour l'instant, je vais vraiment rester sur ce mix-là. Et que c'est pas la route, en tant que telle, pour l'instant, ne m'attire pas plus que ça. Voilà, écoutez, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées, ça fait un long épisode, j'avais décidé de ne pas le découper malgré le nombre de questions, j'ai préféré faire un épisode global, comme ça vous avez ma vision globale hein, du Gravelman, ce qui clôture donc cet épisode commun entre km 42 et km 350 sur cette aventure Gravelman. Alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, hein, je répondrai avec un grand plaisir, je ferai d'autres posts, etc. Je vais vous permettre de suivre aussi la suite des aventures. Les deux podcasts vont retrouver maintenant leur vie séparée. Je sais pas trop exactement encore comment au niveau des différents invités, des différents contenus, des différents sujets que je vais aborder, mais ça c'est ma petite cuisine interne en tout cas. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour vos questions, merci beaucoup pour vos encouragements, pour vos conseils aussi, qui ont été nombreux. Voilà, vous avez à peu près le programme. Vous savez aussi que normalement, au milieu de l'été, j'ai une course sur un format particulier, qui s'appelle la IOTA. Donc là, c'est encore un format particulier, avec de la natation et de la course à pied. Donc c'est pour ça que hier j'ai fait mon triathlon en mettant de la piscine dedans et j'ai vu les progrès que j'ai à faire en piscine. En plus ça sera en eau libre, donc c'est encore un peu différent, mais ça me rappellera aussi les aventures Swimrun avec l'ami Armano qui est lui en train de courir à travers la France, de courir et nager. Je vous remercie tous et puis on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes sur les différents podcasts. Ciao ciao les sportifs.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.